Hey, salut tout le monde, bienvenue à On se sent ensemble. Cette semaine, on reçoit pas un humoriste, quoique très comique personnage, ce gars d'impro, un gars d'art en général, peut-être un jour un humoriste, Arnaud Soli. J'ai bien hâte que vous entendiez ça. Là, c'est un drôle d'entretien parce que. Justement, il veut peut-être se lancer en humour. Et à cause de ça, il m'a laissé parler beaucoup. Et moi, personnellement, je trouve que dans cet épisode-là, je parle beaucoup. je trouve ça parce que j'ai toujours à réécouter les épisodes pour le montage. Hein, et là, se réécouter parler sans arrêt, faire comme, ah, tu l'as déjà dit, ça. Oh, ça, c'était pas nécessaire. Laisse parler l'invité. Laisse parler l'invité. Mais malgré ça, c'est très intéressant. Il dit des affaires aussi. Hein, inquiétez-vous pas. Sinon, des changements sont à venir pour le podcast, comme par exemple, là je déménage d'appartement et là je vais avoir un bureau et tout et tout. Je vais arranger ça belle fun pour que peut-être que je puisse filmer ça, ce podcast-là. Certains m'ont dit j'aimerais ça l'écouter, mais j'aimerais mieux le voir. Ah, voilà. Donc, je vais essayer de faire ça, de faire en sorte que ce soit beau, que ce soit pas du Skype, que ce soit pas comme les vieux sous-écoutes de Mike Ward, que ça buguait tout le temps. Je vais essayer de trouver des caméras, des GoPros. Si vous avez des caméras que vous voulez vous démunir de, hein, vous voulez vous débarrasser de belles caméras vidéo, je serai preneur. Fait que par inbox, quoi que ce soit. Sinon, quoi de neuf? J'espère que vous êtes allé voir des Zoo Fest, allé voir des spectacles d'humour. Je vais aller en voir quelques-uns. Je reviens ce soir même d'aller voir Kevin Hart au Centre Bell. J'étais pas fan à la base de Kevin Hart. Je vais pas l'appeler par son prénom, je le connais pas. Même si je le connaissais, hein. Mais finalement, Christ, bon show, vraiment, vraiment bon show. Ouais, c'est ça. Tout petit gars, hein, il a la réputation d'être vraiment petit, il est vraiment fucking petit. On était très loin. Le Centre Bell était. Apparemment que c'était le plus gros show d'humour de Montréal de l'histoire. Hein, ça, c'est pas n'importe quoi. On a fait partie de ça. Ils nous ont dit, je pense, 32 fois qu'on n'avait pas le droit d'utiliser nos téléphones cellulaires, de prendre des photos, ou any recording devices pendant le spectacle. Parce qu'ils veulent pas que ça se retrouve sur YouTube avant de pouvoir faire de l'argent avec. C'est bien normal. C'est bien normal. Mais c'est vraiment le fun. Il y avait trois premières parties, trois. Ça va être bizarre ce que je veux dire là. Trois hommes noirs qui parlaient d'affaires. De stéréotypes, mais ça réchauffait bien la crowd. Donc, bon spectacle. J'ai eu billet gratuit. Merci à Mariana Mazza, Guillaume Pinault, Julien Tremblay. Ouais, je pense pas que les deux autres avaient rapport avec mon obtention de billets, mais c'est eux qui m'ont donné ça. Très gentil. Sinon, encore une fois, merci d'écouter le podcast. Gênez-vous pas de me donner des suggestions, d'invités, de sujets. Que vous voulez que je discute avec les gens, ça va me faire plaisir de pas toujours parler des mêmes affaires. Semaine prochaine, on va sûrement avoir un podcast. Et là, je veux dire des choses qui vont peut-être pas arriver, mais c'est pas grave. Avec Maud Landry, qui a une christine grosse journée au Zoo Fest. Je pense qu'elle a quatre spectacles et je vais la suivre tout au long de ces spectacles. Donc avant, après chacun des shows et à la fin au complet. Donc ça risque d'être assez intéressant. Mais d'ici là, bonne écoute! On se sent ensemble, épisode 12 avec Arnaud Soli. Sinon, l'été, ça va?
Ouais, mais ça.
Ouais.
Relax.
Ouais.
Ouais, vraiment.
Rien de spécial, des projets. Ça, c'est du foreplay, là.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai des projets. Ben, je travaille sur des vidéos avec Félix, Gour, Julien Charbonneau.
Ok.
Des vidéos vraiment super câbles. Oh, ouais, ouais. Niaiseux, un peu Tim and Eric-esque.
Ouais. Oh, ouais.
On en a tourné 4, puis on en fait, on va en tourner d'autres.
Puis dans le but de faire quoi?
Dans le but de mettre sur Internet.
Ouais, c'est ça.
Vraiment juste dans le but d'avoir des projets, là.
Ouais.
Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Si tu fais pas, les affaires, elles arrivent pas tout seul, là.
Exact.
J'essaie d'écrire aussi du stand-up depuis une semaine. mais je me donne l'espèce de devoir d'à chaque jour écrire. Mm-hmm. C'est pas facile, hein?
Non.
C'est vraiment plus
tard. Ben, c'est
pas plus tard que je le pensais parce que je savais que c'était tough.
C'est comme toutes les muscles de créativité. Puis le stand-up, c'est dur d'écrire quand t'en fais pas régulièrement.
Ouais.
Mais au début, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu sais même pas qu'est-ce que t'aimes faire comme stand-up quand
exact.
Tu l'as pas joué sur scène. Des fois, t'écris d'une manière, tu penses que c'est ça ton delivery, tu sais.
Ouais.
Tu penses que c'est ça les genres de sujets qui te vont bien, puis tu sais, des fois, t'as des influences, mettons, ah, moi, personnellement, au début, j'étais très David Cross.
Ouais, ouais.
Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que ton influence, c'est pas toi, tu sais, ses intonations, puis tout ça, tu sais, ça y va bien physiquement à lui, puis toi, ça a aucun sens que...
Ouais, faut trouver son persona, puis j'imagine, faut que tu le fasses, faut que tu l'expérimentes pour,
Puis pour le comprendre. Avant une couple de shows, tu sais, mettons, Julien Lacroix, présentement, c'est... Il a tellement défini son personnage.
Ouais.
Ça a pris un an et demi. Là.
Ouais.
Ça a pris sa soirée hebdomadaire à Longueuil. Ça a repris...
Sa vidéo.
Des débarques, des échecs, puis des grosses victoires. Là. À cette heure, c'est des victoires.
Ouais.
Mais tu sais, ouais, ouais, ses vidéos, ça... Là...
J'ai hâte d'aller voir son truc.
Avec Rich.
Ouais.
Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Mais tu sais, j'ai vu tout leur matériel.
Ouais, pas moi, ça fait longtemps. Tu prends tout au début, là, tu prends tout, j'imagine, là, que tu refuses pas...
Ben, une gig télé, c'est déjà c'est plus fort que quoi que ce soit.
À moins que ça soit vraiment comme à l'encontre de ton éthique. Là.
Ouais.
Genre, endossé, mettons, il y en a qui ne seraient pas à l'aise de faire la voix de Shell, ou tu sais...
Ouais. Ben, ouais,
Je sais pas, là, ce genre d'affaires-là, tu sais, j'imagine qu'il y en a qui refusent, là, des...
Ouais, mais ça serait surprenant quand même qu'un humoriste de la relève devienne porte-parole pour Shell, mais ça serait...
Ouais, c'est sûr que ça n'a pas trop rapport. Je pense que c'est plus les comédiens, là, quelqu'un qui aurait juste une bonne voix. Là,
Ah, tu veux dire comme faire les...
Genre, mettons, être la voix de Shell Canada.
Dans la pub, là. Puis on voit pas ton visage.
Non,
juste
ça, mais d'être la voix de...
Ah, ouais.
Du produit. Je sais pas, ça peut quand même soulever des...
Ouais, ouais, ben...
Des questionnements éthiques, là, à savoir, tu prends-tu le 10 000 piastres ou ben tu...
Shell, en plus, ça doit être vraiment plus que 10 000 piastres.
Ben là, c'est ça, je sais pas, mais tu en même temps, tu prends cet argent-là puis tu finances tous tes autres projets qui dénoncent Shell.
Ben oui, ben...
non, mais tu peux, là. Je veux dire, à la limite, ça serait la meilleure chose à faire, là. Prendre leur cash pour financer ton numéro contre eux.
Shell, il y a un moment donné, je pense qu'on était au cégep à ce moment-là, mais sur leur site internet, ils ont créé un volet jeunesse.
OK.
Puis c'était des jeux qui apprenaient aux jeunes à quel point leur pétrolière ne nuisait pas à l'environnement.
Ben là, c'est vraiment
même,
weird.
Il y avait un jeu, puis j'y ai joué, là. C'était vraiment... T'avais un pipeline dans l'eau, puis t'avais des belugas qui s'approchaient, puis il fallait que tu cliques dessus pour les empêcher d'atteindre la pétrolière.
Mais tu niaises, c'est bien bizarre.
Mais c'était ça... Tu sais, c'est tellement, tellement machiavélique, là, c'est tellement...
Ah, ouais, c'est ça, on a essayé de contrôler. Ben, tu sais, je pense que la pub a déjà des... Tu vois qu'il y a des pubs qui sont vraiment destinées plus aux enfants, là. Tu sais, la dernière campagne de Subway, là, avec le petit singe en 3D, là, c'est complètement tata, là, mais c'était vraiment...
Oh ouais,
pour les enfants, là, ces pubs-là, je peux pas croire qu'il y a un adulte qui trouvait ça cool, un concombre en 3D. Là.
Non, mais là, tu sais, ce qu'il essayait d'avoir, ce qu'il essayait d'atteindre les enfants, les adultes, c'était tu perds du poids en mangeant.
Ouais, ouais.
Puis là, à un moment donné, les gens en ont assez perdu du poids là, en mangeant du Subway, puis ils en ont pris, puis tout.
Mais t'as-tu vu hier, d'ailleurs,
oui!
Jared?
C'est ça, je Mais est-ce qu'il y a... Fait que là, pour les gens, parce que là, ça va être sûrement 3 semaines ça, dans la vie. Peut-être que ça a eu de l'évolution, mais
on est le 7 juillet.
On est le
8 juillet.
8 juillet
2015.
C'est... le FBI est rentré chez lui pour trouver de la pornographie juvénile.
Ils ont eu le mandat pour raid, genre pour comme rentrer chez eux, mais je pense qu'aux États-Unis, ce mandat-là est assez fréquent.
Ouais, ouais.
Si t'es arabe ou genre. Mais en tout cas, mais ils sont rentrés chez eux, puis ils sont soupçonnés d'avoir. C'est ça, de la pornographie juvénile, mais j'ai pas de détails sur l'affaire. Mais c'est un peu. C'est un peu l'affaire Harrison, là.
Ouais, ouais, ouais.
Mais. Aux States, là. Mais c'est quand même un gros icône américain, là, Jared.
Ben, ouais.
Même ici, on le connaît, mais là-bas, c'est encore plus, là.
Il faisait des conférences. Début 2000, là. Il
faisait des conférences partout, dans les écoles.
Ouais.
Perdu du poids en mangeant des Subway, c'est malade.
Mais les États-Unis, on dirait que c'est le royaume du pétage de fuse, là, que la célébrité monte à la tête, puis qu'à un moment donné, il se passe de quoi dans ta tête, puis que... Genre, ouais, il semble qu'il y en a beaucoup des cas, là, de d'autodestruction, puis...
Mais je sais pas si c'est juste aux États-Unis plus qu'ailleurs, là. Je pense que nécessairement ça, le pouvoir et l'argent, mais c'est que les États-Unis ont un marché.
Ils ont des médias.
Ouais, ils ont le marché du Star System vraiment, vraiment très développé, là. Mais tu sais, n'importe qui, je pense, qui se fait donner une fortune jeune, puis comme se fait donner du pouvoir, puis de la visibilité, est enclin à sauter un plomb, là, peu. C'est pas sain, là.
Non, c'est pas sain, puis il a dû faire le moton.
Jared, il devait avoir du cash quand même.
Ah ouais. Ben, tu sais, déjà pour perdre tout ce poids-là.
Peut-être que il devait prendre de la drogue pour rester mince parce qu'il y avait trop de cash puis il avait tout le temps faim.
Ouais,
comme un exobèse en manque.
Uh-huh.
Peut-être qu'il était tout le temps ses méthamphétamines.
Ça se peut.
Puis quand il m'a dit qu'est-ce que tu fais, ça pire, ben, tu check la porn.
Puis là, à un moment donné, la
ben,
porn.
Je sais pas, là, après ça.
Ben, tu sais, si tout le monde qui regardait de la porn devait. Puis ça, c'est. Il y a clairement des gens qui ont cette vision-là, qui regardent de la porn, te mènent à regarder d'autres sortes de porn. Puis là, de...
Ouais, non, ça, je pense pas, là, je pense
que c'est... Il y a pas dégénéré à regarder... À
non, non, t'es tordu ou tu l'es pas, mais ce qui est fucké, c'est que lui, il travaillait avec les jeunes aussi, tu sais.
Ouais.
Puis là, attendons de voir, là, c'est peut-être des fausses accusations.
Ouais.
Non, mais, attendons de voir, mais... Lui, il faisait le tour des écoles, là.
Ouais. Ah ouais.
C'est un peu bizarre.
Il y a plein d'histoires... J'ai entendu hier une histoire... J'ai pas les noms en tête, là, mais c'est... Il y avait un ancien coach de football universitaire dans une grosse université américaine.
Mm-hmm.
C'est sorti cette année ou l'an passé, ça. Puis, c'est un des coachs les plus reconnus de l'histoire. Puis à un moment donné, plein de ses anciens joueurs ont fait comme un mouvement pour dénoncer qu'ils avaient violé.
Ouais, ouais, j'entends ça.
Puis ça, apparemment, qu'il y a un des juges... Il réussissait pas à trouver assez de preuves pour que ça... Mais tout le monde était tellement convaincu. Mais ce juge-là a tout essayé de trouver les preuves, puis ils l'ont retrouvé mort.
Le coach?
Non, le juge.
Le juge?
Ils l'ont retrouvé mort, ils ont retrouvé son laptop dans un lac, puis plus de disque dur dedans. Ils ont... Mais tu sais...
Ça, c'est pas une preuve?
Ouais, mais c'est... Là, ce qui est arrivé après ça, c'est que ils se sont rendus compte que ce gars-là... amène tellement d'argent à cette université-là, mais c'est des dizaines de millions de dollars parce que l'équipe de... Tu sais, le football universitaire américain...
Ouais, mais ce coach-là, il est remplaçable, là?
Pourquoi ben,
ouais,
ce coach-là? Ben parce qu'il... Non, mais c'est parce qu'il voulait montrer que ça n'était pas un puis que ça allait pas entacher les,
ouais,
l'école,
okay,
parce que l'école protégeait cet homme-là. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que il a été renvoyé, puis il est mort comme 6 jours plus tard.
Fait que... Oups,
mais... Ça, on a parlé avant de commencer d'enregistrer. T'as écouté plein de trucs de la BBC. Tu connais tout, probablement Louis Theroux.
Je pense ça, vas-y.
C'est un journaliste Gonzo qui appelle. Qui est, le journaliste Gonzo, dans le fond, c'est tu t'en vas t'immerger à 100% dans ton. Pas produit, dans ton sujet.
Dans ton enquête.
Puis lui. Il fait des documentaires pour la BBC, c'est un anglais. Puis, mais c'est toujours pratiquement aux États-Unis qu'il va. Puis comme par exemple, il a fait le documentaire The Most Hated Family in America.
Okay.
Puis ça, c'est la Westboro Baptist Church.
Ah ouais.
Je sais pas si tu connais.
Je connais un peu là, le Baptist Church. Là.
C'est eux qui haïssent les homosexuels.
Ouais, c'est
puis
ça.
Ils haïssent tout ce qui accepte. En tout cas, ça, faut que t'écoutes ça. Puis
lui, il s'en va vivre avec eux.
En fait, il passe 3 semaines avec eux, puis eux sont au courant de qui il est.
Oui, oui, c'est ça, puis, il fait un documentaire.
Tu sais, c'est pas comme une caméra cachée, là. Puis il a fait une deuxième partie à ce documentaire-là, Puis quand il est revenu avec eux, il était rendu comme l'antéchrist.
Ah ouais.
Hein? Ouais, puis il l'espèce de nouveau leader de la gang lui a dit que tu fais partie des trois personnes les plus démoniaques de l'histoire de l'humanité.
Ben voyons donc.
Juste après Ponce Pilate.
Hein?
Puis là, comment ça? Ben parce que toi, t'es au courant du message, tu sais, qui est leur message de la Westboro.
Ouais, ouais, ouais.
T'as pu le vivre avec nous, puis encore là, tu refuses de l'accepter. Puis tu t'envoies le message aux gens.
Mais ces gens-là sont aveugles aussi. Là. Ces gens-là sortent pas de chez eux, là, clairement. Là.
Ben,
faut vraiment être coupé de la réalité pour avoir des...
Mais le pire, c'est qu'ils vont toujours vers les gens, puis mais ils insultent, ils vont dans les funérailles de militaires, puis avec des pancartes comme « God hates fags », puis « Army are fags », puis...
Mais voyons
pendant
donc.
Des funérailles, puis... c'est de la... Mais les États-Unis, c'est tellement gros, puis le centre des États-Unis est weird, là. Mm. Tu sais, les côtes, c'est vraiment les États-Unis qu'on connaît, là.
Ouais, ouais.
Puis le milieu, c'est étrange.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça partout, là. C'est-à-dire que les villes côtières ont plus d'ouverture au monde de par l'immigration, de par la multiethnicité, Je pense naturellement, il y a une espèce de... d'ouverture qui se crée, puis au centre, ben historiquement, t'es plus coupé du monde. Uh-huh. Fait que, tu sais, c'est les plus consanguins, là, entre guillemets, je veux pas dire que tout le monde...
C'est vrai, la consanguinité
culturelle, là, aussi, là. C'est-à-dire que quand t'es tout le temps avec ton cousin...
Puis que t'as juste vu les montagnes dans ta vie.
Ben, c'est sûr que la vérité, c'est ce que ton père t'enseigne, tu sais. T'as pas le... T'as pas les ressources pour égayer ta curiosité autant, j'imagine. Ben, maintenant, c'est moins vrai. Je pense, avec le...
Avec l'Internet.
Ben, ouais, c'est ça. C'est l'espèce de globalisation des communications. Là,
ouais.
Le village global. T'as un peu accès au monde. Là. Mais encore faut-il être curieux. Là. Encore faut-il vouloir savoir.
Ouais. Mais ça, c'est ça, il y a du monde sur les côtes qui sont aussi pires que ça, de toute façon.
Ben oui, évidemment, mais tu sais, puis je pense que moins t'en sais, puis moins tu veux en savoir. Tu sais, il y a comme un truc un peu vicieux de... Quand t'es ignorant, ben tu sais, t'es un peu heureux dans ton mode de pensée simple, ou est-ce que, tu sais, si t'as comme des réponses à tout, mettons Dieu, ça répond un peu aux grandes questions.
Mm-hmm.
Après ça, tu veux pas challenger tes principes.
Oh ouais, ben c'est comme dans les Simpsons, dans l'épisode où Lisa, la première Malibu Stacy qui parle.
Ouais,
puis une des répliques, c'est « trop penser, ça donne des rides ». C'est exactement ça, tu sais, extrapolé, là, mais tu sais, comme, c'est tellement simple pour réfléchir. Là.
C'est le plus simple.
Oui.
C'est le plus simple.
Puis les rides, c'est vraiment comme l'image la plus simple de « ça te complique la vie ».
Ah ouais,
mais...
clairement.
Mais pour ceux qui écoutent depuis le début et qui savent pas à qui je parle, je vous présente Arnaud Soli, mesdames et messieurs.
Salut.
Là, j'ai pris une voix funky, radiophonique.
Ça marche, hein?
Bon, c'était pas pire.
C'est bon.
Arnaud, on s'est connus au cégep, évidemment, ouais. Avec l'improvisation.
Mm-hmm.
Tu jouais au cégep du Vieux-Montréal.
Mm-hmm.
Uh-huh, des mm-hmm. belles années.
Les plus belles de mon...
Ah, non. De ton cégep.
Non, non, c'est des belles années, oui, oui.
Mais...
C'est un peu flou, on dirait, ces années-là, pour moi.
Ouais.
Je fumais beaucoup de potes.
Ah uh-huh. Ben, ça, c'est...
Mais c'est des années de party.
Ouais.
Un peu d'études.
Mm-hmm.
Par-ci, par-là.
T'étudiais en quoi?
En art plastique.
Ouh.
Ouais.
Fait que c'était un bon...
C'était un bon programme, moi, vraiment. C'était un bon programme. Ouais. Pour fumer du pot, évidemment.
Ouais.
Quoique non, c'est jamais bon de fumer du pot à l'école, honnêtement. Tu penses que t'es créatif, mais tu t'endors et t'as faim.
Ouais.
Alors, je fumais pas tout le temps, là, mais... Disons que... C'est que tu sors du secondaire parce que t'es comme un jeune adulte. Tu commences à être un adulte au secondaire, mais t'es super encadré.
Ouais. Oh,
c'est
ouais.
Presque castrant. T'as des petites récrés, tu peux pas sortir de la... T'sais, t'es exact. Vraiment checké. Et là, l'année suivante, c'est comme le contraire, là. Tu sais, t'as des cours, personne t'oblige à y aller. Là, tu fais, ah, ok. Tu sais, en tout cas, mais pour moi, c'était le vrai, une espèce de première expérience de liberté, là.
Ouais, ben moi
J'ai
aussi.
une impression de liberté, du moins, parce que
Ouais, ben
j'habitais chez mes
c'est
parents, puis je
ça.
payais rien dans la vie, puis.
Exact. T'sais, la vie était simple avant. Puis toi, t'étais-tu en concentration musique au secondaire?
Ouais, j'ai fait ça.
Encore là, c'est
Ouais.
ça, t'es encadré en crise dans une concentration
Ouais,
musique.
puis t'as des répètes après les cours, du
Exact.
parascolaire, les concerts,
Et, ouais, non, moi j'ai tout appris au cégep. Ça, en coulant tous mes cours, là,
puis
j'ai tout appris au cégep.
tout.
C'est quand il y a le débat là, de est-ce que les cégeps sont nécessaires là, pour le cheminement de la vie, là, ça dépend pour qui, j'imagine, mais j'aurais tellement pas aimé ça passer du secondaire à l'université, puis
Non.
découvrir ce que j'ai découvert à l'université, j'aurais pas réussi mon université. T'sais.
Non, mais ben moi je pense que ben pour moi c'était une étape importante, mais plus en termes de d'exploration du monde,
Oui,
là,
exactement.
d'expérience humaine, de construction aussi de mes passions, qui sont encore là, mais tu sais, je me définissais vraiment comme humain, là, tu sais, en réaction un peu avec tout, là, tu sais, au cégep, tu veux changer le monde, t'as l'impression que, tu sais, ce que tu fais a vraiment un pouvoir de changement. Tu sais, c'est quand même une belle époque, on dirait que
Le cégep.
il y a comme une énergie. En tout cas, je sais pas, moi, j'ai le souvenir de qu'on était une génération pas trop désabusée, pas trop cynique non plus, on était comme, ben, très politisé quand même au Vieux-Montréal. Puis, on faisait des trucs, là. Justement, l'impro, c'était super important aussi. On faisait des shows, on faisait de la musique, tu sais.
Et je pense
Puis,
que
il y avait beaucoup
c'est.
de création quand même. Puis ça, c'est important. Après ça, on était fuck all, tu sais. On était pas à l'heure, on était mêlés, on fumait du pot en se levant. Fait que, tu sais, on était des beaux rêveurs. Mais, non, c'est vraiment des belles années quand même, je trouve.
Puis, je sais pas pour toi, mais moi, comme j'ai créé des grandes relations d'amitié
Ouais,
avec le cégep, là, mes meilleurs amis. Moi, j'ai encore des amis du secondaire, mais pas tant que ça.
oui. Ok.
Mais à un moment donné, à partir de Saint-Jean, puis
Ouais, tu
arrivé à
changes vraiment.
Montréal. Au début, il y avait comme un truc de fidélité, là, comme ah, faut quand même garder des liens partout, mais. Je pense que s'il y a des liens à garder, ils vont rester par eux-mêmes.
Avec le temps, tu peux pas renforcer les amitiés. Je pense qu'il y a bien quelque chose qui se fait naturellement, ben, c'est-à-dire faut que tu les appelles tes amis, mais je veux dire, tu le sais, là, les gens qui comptent le plus, là, c'est comme pas une affaire de. Sais, je pense que c'est pas très rationnel, les amitiés,
Non, clairement, s'il faut
t'es
que tu aies un
choisi pas tant que ça.
rendez-vous officiel pour garder une amitié en vie, c'est plus difficile. Parce
Ouais,
que quand
non.
ça va briser pour vrai.
Ouais, c'est clair. C'est les vrais amis pour la vie, hein.
Et voilà.
Bon, ben c'est la
Mais on reparlera de tout ça éventuellement. Mais pour ce qui est du monde du podcasting, tu as fait partie du dernier panel. De pas de problème.
Oui.
Hein, à tous
J'ai...
les podophiles. Oh!
Salut!
Hashtag! comment c'était? Toi, c'est ça. Quand, dans le fond, t'es-tu arrivé directement quand Antoine Vézina puis Jean-Philippe Durand sont partis ou.
Directement, ben c'est-à-dire j'étais dans cette dernière batch là où est-ce que c'était un peu plus lousse. Martin Boily en faisait une coupe, Louis Courchain en a fait une
Ouais, il y
coupe,
avait
Simon
5-6
Rousseau,
personnes en rotation.
Dave Lambert,
Ouais.
Théberge, puis je pense que ben j'étais dans la banque de noms. Fred essayait de juste en faire le petit, comme trouver du monde qui peuvent le
Ouais.
faire, qui veulent le faire. Si c'est difficile un peu aussi à organiser des fois.
Ben, podcast à 4, ben, ça a paru. Quand les Antoine puis JP étaient là vers la fin, ça paraissait qu'il y avait comme un poumon artificiel.
Ouais, ils
Puis
ont
là.
peut-être tiré l'affaire un peu.
Ben oui, mais quand il y a eu la nouvelle gang, on a senti un nouveau souffle pour vrai, mais à un moment donné, c'est dur. Moi, j'ai la facilité de. Je suis seul avec un invité. Ouais. On se trouve une date, puis that's it, mais 4, c'est...
4, je t'avoue que c'était compliqué des fois. Ah oh non, demain, je peux pas, on remet, ah, oh, je peux plus, ah, oh, fuck, on est 3, attends, je vais appeler quelqu'un.
Ouais.
Je pense qu'à un moment donné, pis c'est Fred Barbouchi qui prenait tout ça sur ses épaules. Uh-huh. Je le salue d'ailleurs, un homme très, très créatif. Mais je pense qu'il était tanné aussi, puis...
Ça fait...
Ça s'est fini... Je pense naturellement là aussi, mm-hmm. C'était pas comme une mort dramatique.
Ouais,
là.
Ouais, on cherchait pas les solutions.
Je pense pas que ça a duré 3 ans de trop non plus. Là.
Non.
Le show était bon à mon avis. Là.
Ben, tu sais, ça aurait pu. Si c'est 3 ans de trop, ça aurait été pour vous autres. Parce que les gens. Tu sais, le podcast, ça coûte rien. Puis, ultimement, ça coûte rien à produire non plus. Fait que ça, les gens, s'ils veulent arrêter de l'écouter ou s'ils veulent continuer à l'écouter, t'sais. C'est leur affaire.
Exactement. Je pense pas qu'il y a personne qui se plaint que les podcasts envahissent leur vie. Là.
Ouais.
C'est toi, tu fais ce que tu veux avec ce podium-là.
Ah ouais, c'est comme le Club Columbia de l'époque. Là.
Ouais, c'est ça.
Recevoir un petit courrier de Club Columbia des podcasts, ça serait weird.
C'était cool, ça.
Mais le Club Columbia?
Ben, je l'ai jamais vécu, mais j'ai vu un peu. Là, ouais. Tu reçois le formulaire, avec tu commandes tes cassettes.
Ah ouais. On avait reçu une grosse batch une fois chez nous, c'était bien excitant. C'était bien, tu sais, de recevoir clair. Comme 6 cassettes, là, que, tu sais, puis probablement que mon père avait choisi 5 films sur 6 pour moi et ma soeur, puis, ouais. Fait que, tu sais, c'est fou de recevoir
c'était un beau colis, là.
Robin des Bois en collant, puis et compagnie, là.
C'était bon, ça.
Mais ça, c'est une époque de film qui est un style de film qui n'existe plus du tout.
Ouais, c'est pas vrai, ça existe, mais ben, à mon avis, là, ce qui a remplacé ça un peu, c'est les genres de.
Scary movies.
Ouais, c'est ça, film de super-héros, film de. Mais ça a été tourné en genre de parodie des films de notre époque, donc ça n'a pas la même esthétique.
Exact.
Mais tous les trucs de Mel Brooks, tout ça, ça reste quand même. Ça capture quand même l'esprit des films de ces années-là.
Ouais.
Mais je pense qu'on vit aussi un petit peu de nostalgie là, par rapport à ces films-là, parce que évidemment. Le grain est différent. Là. On les a tellement écoutés en traduction de merde.
Robin des Bois en collant, jamais je vais écouter Hero in Tights, là, la version anglophone.
Non, c'est ça. C'est des films que t'écoutes traduits. Puis...
Ben oui, puis t'as Dave Chappelle là-dedans, fou, quand il y avait... Quoi, 16 ans, 17 ans?
Son premier rôle, je pense.
C'est incroyable.
Ouais, vraiment.
Ah, mais Dave Chappelle faisait du stand-up dans les bars à 14 ans.
Ah, ouais?
Ouais.
Il y avait le droit?
Non. Probablement pas.
Il y avait des fausses cartes.
Mais tu sais, c'est...
Ouais, c'est fou.
Ça, c'est l'histoire. Imagine...
Il a pris sa retraite à 23 aussi?
Ben là, il est revenu.
Mais là, il revient, mais je sais, mais il a arrêté comme très jeune pendant un bout.
Le stand-up?
Ouais. Ben après son show,
après
là.
Après Chappelle show. Ouais, mais non, il était plus vieux que ça, là. Il avait 30 ans.
Ah, oh, mais il était jeune, là.
Mais c'est pas qu'il a pris sa retraite, c'est que... Puis là, toutes les histoires là-dedans sont... Moi, j'ai écouté 16 documentaires là-dessus, puis des entrevues, puis tout, là. Mais c'est parce que lui, c'est un free bird, là. C'est puis... Là, tu sais, je sais pas si t'as vu le Chappelle Show.
Oh, ouais, j'ai tout vu.
Tu sais, c'est le show... Si tu mets des bâtons dans les roues de ce show-là, ça se dénature à 100%.
Ouais, c'est carte blanche, là.
Il faut que ce soit carte blanche, puis si tu l'empêches de dire nigger, c'est même plus Dave Chappelle.
Exactement.
Puis, mais c'est là que les gens, il faut qu'ils comprennent que quand lui, il dit nigger, si tu censures sur mon podcast. Non, mais si tu censures ce gars-là, tu sais, le message est plus là, tu sais.
Ben, c'est plus lui, là.
Exact. C'est juste... Non, mais si tu...
C'est édulcoré, là.
Si tu veux faire... Parce que Dave, lui, c'est un noir, pour ceux qui savent pas. Puis, mais tu sais, il y a beaucoup de sketchs qui sont comme... Il rit des stéréotypes, puis il dénonce par ça. Puis le stéréotype, il dit « nigger ».
Ouais.
Il dit... c'est ça, là. Ils peuvent pas... c'est pour ça qu'il fait des personnages où lui, il fait des white face au lieu de faire des black face.
Ouais, c'est fou, ça. Mais là, juste pour finir l'affaire, qu'est-ce que. Fait que lui, c'était un free bird, fait que c'est juste de citer. Mais moi, je dis qu'il a pris sa retraite, mais c'est parce qu'il a coupé quand même tous les projets pour une couple d'années, là.
Ouais. En fait, pour la troisième saison du Chappelle Show, il s'est fait offrir 50 millions de dollars.
Mm-hmm.
Puis il a juste pas été capable de handle la pression.
Okay.
Parce que là, avec ce montant d'argent-là. Venait comme l'équipe aussi qui pouvait contrôler le show.
Producteur.
Exact.
Bon.
Parce qu'au début, c'était un petit peu moins financé, tu sais, c'était pas cheap, pas en tout, mais tu sais, gagne moins d'argent, fait que t'as plus de lousse. Là, si on te donne plus d'argent, ça nous donne l'opportunité de mettre la main dans le sac aussi.
Complètement.
Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il est allé... Tu sais, lui, il habite en Ohio. Il a sa ferme en Ohio.
Ah, ouais?
Ouais. Lui, c'est un gars qui vit fucking simplement.
C'est pas un gars de ville.
Ah, zéro. Puis sa femme, c'est une japonaise. Il y a ses enfants-là. Il est allé vivre... C'est ça la grosse affaire. C'est qu'il est allé vivre... Il est allé... Pas se cacher, là, mais il est allé comme se ressourcer en Afrique.
OK.
Mais aux États-Unis, tu fais ce move-là, puis là, les conspirations embarquent. Il y en a qui disaient que c'était parce qu'il était rendu addict au crack, fait qu'il était allé fumer du crack en Afrique. Puis là, lui, il a répondu à ça. Man, pourquoi je serais allé en Afrique fumer du crack? Je peux aller à San Francisco, New York. Là.
Ouais,
le crack sera pas bon là-bas. Là, il y avait des histoires d'Illuminati là-dessus.
Toujours.
Ça, évidemment. Puis, sauf que Dave, des fois, il fait des calls d'Illuminati pour vrai. Là.
Ouais.
Que des gens qui, justement, qui ont offert 50 millions pour pouvoir contrôler son message. Puis là, il dit pas comme le nom des Illuminati, mais tu sais, c'est des
gens des hautes sphères. Là.
Ouais, ouais. Mais ça, c'est clair, ça existe, tu sais. Des gens qui veulent contrôler, puis par le cash.
Ben, par les médias.
Puis tout le monde se... Exact. Puis tout le monde se parle là-dedans, puis le message est le même partout, là.
Ah, ça fait peur, ces affaires. tu me faisais penser en parlant de... Je vais le ramasser tantôt. tu me faisais penser en parlant de du Chappelle Show. Hier, j'écoutais Raw, le deuxième de Eddie Murphy. Puis je trouve que ça a comme mal vieilli.
Ça a fucking mal vieilli.
Ces blagues sont les homosexuels, là, puis les femmes. Là,
non, mais... Mais
c'est parce que son premier, je le trouvais pas nécessairement macho ou condescendant.
Tu sais, c'est une autre époque, ça, c'est clair.
Ben, c'est 87.
Puis il avait 18 ans, Eddie Murphy.
Ben, dans Raw, il y en avait 20.
Ouais, Delirious, c'est... Mais...
Il était jeune.
C'est qui j'ai entendu? J'ai entendu un humoriste sur un autre podcast... Sur le podcast à Ari Shaffir qui dit plusieurs humoristes font ça, surtout pour leur special. Au début de leur show, même Bill Cosby faisait ça, il commençait avec un numéro sur l'alcoolisme pour être plus rough au début, pour avoir l'attention, puis après il rentrait dans les histoires. Ouais. Parce que tu peux pas commencer ton show en racontant tes histoires parce que les gens te connaissent pas.
Exact.
Puis.
Faut que tu commences avec du
truc
vert général, des provocateurs.
Qui fessent pour que l'oreille soit attentive déjà.
Ouais.
Puis au Québec, surtout avec la formule de l'école, ça se traduit souvent, hein? Salut, je m'appelle Olivier Roberge et je perds mes cheveux. T'sais, puis là, les gens vont se reconnaître là-dedans ou ils vont faire comme, ok, ouais, apprenons à le connaître.
Ouais.
Puis ça, souvent, t'sais, si tu regardes beaucoup de shows, tu vois...
Ouais, t'as raison.
Mais... Il faut vraiment se présenter, mais ouais, Eddie Murphy, déjà son accoutrement.
Mais ça, j'adore, là.
Ben, c'est fantastique. Mais ça, c'est une tradition noire, là. Puis c'est vrai, là.
Ouais, ouais.
C'est... Parce que c'est comme c'est le modèle du hip-hop, là, que tu veux montrer à ton peuple.
Entourage.
à ton entourage que t'as réussi.
Oui, oui.
Fait que, tu sais, c'est Kevin Hart qui disait comme... Chris, nous on se met en veston qui flash avec des beaux choses qu'on vient d'acheter avant special. Louis C.K. il monte sur scène avec un polo avec le collet mal plié.
Ouais.
Mais ça, c'est, tu vois, c'est le...
Ça, c'est son personnage aussi, là.
C'est le personnage, mais c'est la culture. Tu sais, même Bill Burr, où il est juste en chemise ordinaire pour rentrer dans ses pantalons, puis je pense que c'est vraiment dans la culture. Eddie Murphy a découlé Chris Rock.
Ouais.
Tu sais, Chris Rock aussi a des vestons flashy, là.
Classy, ouais, ouais, ouais.
Puis découle Kevin Hart.
Non, puis c'est quasiment, c'est malade, là, ça. C'est comme une rockstar, là, Eddie Murphy, là. Puis c'est vraiment un truc culturel aussi, là.
Ah, ouais.
Dans le crowd, ça a l'air d'être beaucoup des femmes noires, ben, essentiellement.
Eddie
crie, là, quand il rentre sur scène, comme si c'était comme... Une idole.
Monsieur Murphy a dû s'en taper de la poulette en backstage.
Là là là.
Mais ce qui est étrange avec Eddie Murphy, c'est qu'après sa mode, il est mort. Quand les films genre Beverly Hills Cops, puis Un prince à New York, quand cette génération de films là, quand les films de du sud californien était plus à la mode, lui, il est devenu désuet.
Il est devenu Dr. Doolittle, puis...
Ah, y en a tellement... Pluto Nash.
Ah, il a tellement fait de mauvais films.
Il s'est fait enlever son Oscar honorifique.
Il se l'est fait enlever?
Ouais.
Pourquoi?
Pour la médiocrité de son œuvre.
Ah ouais?
Mais ça, c'est ridicule, là.
Tu peux pas faire ça.
Ben, ils l'ont fait.
Hein, mais c'est bien méchant.
Ouais.
Mais là, trop tard, ils l'ont donné.
Oui, exact. Mais qu'est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils sont allés chez eux comme... Tu sais, un huissier d'Oscar?
Ils ont sûrement laissé, là. Ils l'ont juste enlevé des livres.
J'espère.
Ça a l'air que... En tout cas, j'entendais des histoires que c'est vraiment comme un truc cul, là. Ça a l'air,
ouais. Non, mais imagine à 18 ans, mon gars, tu remplis des arénas. Tu sais, c'est le même...
Ça veut pas dire que tu deviens un truc cul.
Non, mais c'est le même complexe que Justin Bieber, là, qu'on... Ouais, c'est vrai qu'après...
Il n'a pas vécu une adolescence normale, ça, c'est sûr.
Ouais. C'est sûr que tu peux rester terre à terre, puis forcer pour... Mais ouais, là, apparemment, c'est vraiment un mange-marde. Il doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Je sais pas. Oui.
Parce que même pour ses
films... Il fait des voix encore, là.
Même pour ses films de navet, là, il a sûrement gagné 16 millions de dollars à la signature.
C'est sûr.
T'sais, fait que c'est... Puis pour ces deux shows-là, Raw Delirious... Il en a fait du cash.
Après ça, il a arrêté le stand-up, hein?
Pas mal, ouais. Puis, tu sais, comme là, les gens étaient déçus au 40e de SNL, qu'il fasse pas de... Il a juste fait un mot comme « j'étais content de revenir », puis le monde était déçu qu'il fasse pas du stock, là.
Il est drôle, ce gars-là. Il est hilarant, là.
Puis, ça serait sa seule manière de... Sa seule méthode de rédemption, dans le fond. Parce que là, il est un peu abandonné par le public, tu sais.
Ben oui, ça fait comme 10 ans qu'il n'a rien fait de bon.
Exact. Mais et s'il plus. S'il revenait avec un special, je pense que les gens achèteraient, probablement seraient déçus, parce que les gens sont toujours déçus de ce genre d'affaires-là.
Ouais, mais...
Mais si ça marche, ça marche.
Ouais, je sais pas. En tout cas, je trouvais juste que, en regardant le show, que ça avait mal vieilli pour certaines affaires-là.
Pour le propos?
Ouais, dans le propos. Pour moi, sur les femmes, il y a des trucs qui disent qui sont inacceptables, à mon avis.
Lui,
pour
les homosexuels,
fags. Pour moi, ça me fait grincer des dents, tu sais.
Ben, c'est...
Parce que, tu sais...
C'est inacceptable.
À la limite, tu sais, je sais pas. Un homosexuel qui dit fags ou un noir qui dit nigger, je peux comprendre que ce soit réapproprié, ces mots-là, mais...
Mais c'est pas comme...
Mais c'est vraiment péjoratif, là, fags, là.
Ouais, ben ça... Tu sais, il y a un numéro que, je pense, 4 humoristes ont fait. Puis là-dessus, il y a Dave Chappelle, il y a Mike Ward, il y a Louis C.K. C'est le mot... tu sais, mettons, Mike Ward, c'est... Quand je traite quelqu'un de tapette, c'est pas de tapette que je le traite, mais de tapette. Dans le sens, c'est pas d'homosexuel, mais juste une attitude de tapette.
Ouais.
Puis, mais tu sais, l'affaire, c'est que ça excuse rien pour vrai. Mais en même temps, on...
Mais je comprends.
Mais en fait, c'est de fif qu'il traite, pas de tapette. Mais tu sais, comme, hey, t'es fif, tu sais. Puis souvent, c'est une manière de... En boys, de c'est un t'es pas game, genre, t'es ouais. fif, là, tu sais. Ouais, mais quand... Eddie Murphy dit si je marche toujours sur scène de gauche à droite, c'est parce que quand j'arrête trop longtemps, je sens que les regards des faguettes me regardent le cul puis me brûlent le cul, tu sais. Ça, c'est n'importe quoi.
Mais c'est un bon gag.
C'est un fucking bon gag.
Mais c'est pas faguette.
Non, c'est ça. Tu sais, puis même si ça avait été. Tu peux dire que c'est le regard des femmes aussi, là.
Mais
parce
oui.
que les femmes, ils vont regarder ton cul. Bien moulé dans ton habit de vinyle rouge.
Tout le monde, moi, je le regarde ton cul. Là.
Exact.
Tout le monde regarde ton cul. Là.
Exact. Autant les faggots que les hot women.
Ah ouais.
Ben, ouais. Puis, je sais pas quel genre de matériel va mal vieillir dans ce sens-là aujourd'hui.
Ah, au Québec, mettons? Ou en général?
En général, mais on peut parler au Québec.
Ah, bonne question. Ben, tu sais, tous...
Mais au Québec, ce qui a mal vieilli, c'est le style... Les années 90, tu sais, quand toi puis moi on avait 10 ans, 12 ans.
Le style vestimentaire?
Oui. Vestimentaire, mais le style d'humour aussi.
C'était quoi dans le stand-up des années 90?
C'était Jean-Michel Antille, Mario Jean, Morancy, Mascotte,
ouais, Lise Dion. Ouais. Mais il faisait quand même des trucs un peu différents. Ben, Antille faisait beaucoup de personnages.
Ouais.
Ben quasiment burlesques, des gros persos. Là.
Ouais, c'était.
Il fait encore ça d'ailleurs, je pense.
Il y a pas...
Un peu, là, quand même. Ouais. Personnage, genre, un gars sous... Mais c'est... Le gars qui zazote, la fille... Des trucs quand même gros, là.
Mais ça, ce qui...
Je dis pas que c'est pas bon, là. Je dis,
mais quand tu voyais les entrevues de ces gens-là avant, tout ce qu'ils disaient toujours, c'est... qu'on fait un personnage parce que ça nous permet de dire des choses qu'on dirait pas en soi-même.
Ah, OK.
Puis ça, aujourd'hui, c'est inacceptable. Parce que les gens, ils veulent la vérité.
Tu peux pas... Ouais, ouais, je suis d'accord, mais c'est à dire que peut-être que les personnages sont plus subtils aussi, parce que je pense que dès que tu montes sur scène, t'as un personnage de scène.
Absolument, mais...
François Bellefeuille, justement, Yannick Demartino...
Oui.
C'est pas... Ben, ils doivent se ressembler un peu, mais...
Mais même moi qui ai un personnage qui est vraiment proche de moi,
ouais.
C'est un personnage même, puis ça, c'est le genre de personnage que les gens veulent voir. Faire la tournée des bars avec un costume, j'en ai vu deux depuis que j'en fais, là. Puis c'est un duo qui font des personnages. Mais faire
c'est qui, donc?
C'est le duo Chauffé Éclairé. Avant, il était Saut de Mousse.
Ah oui.
Ils ont fait la finale
en route.
Il
était trois.
Ouais, dans ça là, il était trois.
OK.
Là, il y en a un de la gang qui est plus là. Mais peu importe. Les gens, ben c'est parce que notre culture de stand-up s'en va de plus en plus vers la culture américaine.
Mm-hmm.
Puis... J'en connais pas vraiment un stand-up américain. Parce que les specials, t'as pas le temps d'aller en backstage te changer. Parce que c'est une heure.
Mais non.
De toute façon...
Mais non, mais moi, je veux pas avoir de costume quand je vais avoir un show d'humour. Là. Je veux que ton propos puis ton intelligence me transporte. Là. Ouais, j'ai pas besoin de le voir. Là. Je veux dire, si t'es assez bon, moi, je vais le voir. Là.
Absolument.
Me semble que c'est ça la beauté du stand-up aussi. Là. C'est un tabouret, un pied de micro puis un petit bouteille d'eau. Là,
c'est le classique, mais c'est ça qu'on... Mais c'est pour ça que je dis, t'sais... Cette époque-là a tellement mal vieilli, mais le. Tu sais, souvent on reproche aux humoristes de ces années-là surtout de parler de relations hommes-femmes.
En cliché, là, souvent. En tout cas,
t'as pas le choix d'utiliser. La différence entre les hommes et les femmes, nanana, mais je pense que c'est parce que c'était l'époque. Je pense qu'on vivait dans une époque au Québec où les hommes connaissaient plus nécessairement leur place dans le couple. T'as plus le droit d'être macho,
mm-hmm.
Puis en même temps, tu veux pas être un homme rose, tandis que les femmes, elles, veulent s'émanciper, puis doivent s'émanciper, mais certaines... Fait que je pense que c'est ça qui faisait que cette époque-là, les gens...
Gros questionnement sur le genre.
Exact, puis l'humoriste, c'est... moi, je trouve que c'est le psychologue de la société.
Absolument.
Puis... T'sais, aujourd'hui, il y a la liberté d'expression qui est vraiment plus grande qu'avant. Avant, là, à la télé, on disait pas...
Asti.
Tu sais, on disait pas... on sacrait pas. Il y avait pas de sexualité. Man, aujourd'hui, tu regardes Unité 9, là...
C'est... Maintenant, tu vois des seins, des seins, des sacs.
Tout le monde dit « Fuck! » N'importe quand. Même dans des émissions de service, quasiment, là. Peut-être pas des émissions...
Pas droit au... Tu sais, pas le show à France Castel, là. Droit au cœur? Comment ça fait?
Qui joue aujourd'hui? Avec Michel Barret.
Oh, ça joue-tu encore?
Non, ça finit, malheureusement.
J'ai pas la télé.
Moi non plus.
Mais, bon. eux, ils sacraient pas trop quand même.
Ça devait pas être...
Parcelle trop. De soleil, mettons. il y a plein de soleil. La parcelle de soleil, c'est le gars qui découpait des trucs.
Ah oui, la Bible en papier, c'est ça?
Oh mon Dieu, Seigneur.
Mais ça, c'est... Tu sais, mais mettons, pas la Bible, parce que ça, c'est concept religieux, là, mais des émissions jeunesse... Simple de même, là, comme quand on était jeune dans le temps de limite Vasimolo, parce qu'on est un peu jeune pour ça, mais Bulldog Bazar.
Les samedis.
Ouais, mais tu sais, je veux dire, comme les émissions. Parce que Bulldog Bazar, c'est comme l'émission.
Oh, l'émission qui parraine tout l'avant-midi. Là.
Ouais. C'était fou, là, les émissions. Une émission de bricolage, ça passerait plus.
Non.
Moi, ce que je suis vraiment déçu, c'est qu'il n'y ait plus les débrouillards.
C'était bon.
Moi, les débrouillards, je les écouterais probablement.
Mais il n'y a pas un show de science un peu pour...
Peut-être.
Pour ados avec Stéphane Bellavance à...
Mais c'est pas pour ados, ça, c'est bon,
C'est pas pour ados?
Non, c'est vraiment... C'est
plus pour adultes?
C'est pas plus pour adultes, c'est vraiment pour tous.
Ouais.
Mais c'est comme un quiz, avec Martin Carly.
C'est ça.
Puis je me rappelle pas du titre, mais tu sais, c'est une émission que, mettons, quand c'est la semaine de relâche, il y a des enfants à la place des adultes qui vont faire le quiz, puis toujours avec des invités connus.
Ouais.
Mais je veux dire, les débrouillards, on dirait que c'était une manière d'intéresser les jeunes à tout. La science en particulier, mais à tout. Puis tu sais, C'est sûr que le Grégory Charles pourrait plus le faire. Mais tu prends, est-ce quoi, c'est...
tu prends n'importe qui, là.
Comment il s'appelle, Ouellet, là, Nicolas Ouellet?
Tu dis ça parce qu'il est noir?
Oui.
Non, mais parce qu'il est bon.
Mais parce qu'il est bon, mais tu sais, si tu veux garder le concept de...
Ouais.
De Grégory, tu prends lui, puis il y a autant de tchatch, là.
Ouais.
Mais, parce que l'autre jour, je suis passé devant...
Le soleil, c'est qui?
Ça, c'est touché parce que... Il y avait Karine Vanasse, hein?
Karine Vanasse,
la deuxième mouture où c'était comme Grégory et ses quatre amis enfants.
Il y avait Karine, le roux.
Le roux. Il y avait Yann England.
Puis Yann England.
Ouais. Puis il y avait une autre fille qui est sûrement scientifique aujourd'hui, tellement elle en a appris.
Ah. Je m'excuse pour le roux, je t'ai déjà croisé. Max?
Max. Max. Tu l'as peut-être vu à la roquette.
Fait que le stand-up qui va mal vieillir. Mais... ouais, ben moi, c'est sûr que je regarde des vieilles cassettes de Juste pour rire. Là. Même un number d'Anthony Cavanagh où est-ce qu'il est vraiment énervé, ouais. Mettons, ça me parle peut-être moins.
Mais...
tu sais, où est-ce qu'il fait un paquet de sons, puis de faces, puis ouais, tu sais, de l'humour. Après ça, je pense que c'est un grand, grand performeur. Là.
Ouais, ouais, ouais.
J'enlève rien de comme... Son efficacité, mais c'est, je pense que c'est des numbers qui me parlent moins, tu sais.
Mais presque, pour vrai, presque tout le matériel de ces années-là.
Ouais.
Faut avoir son propre bijou là, pour triper, parce que sinon, juste les galas Juste pour rire en général à la télé, là, c'est tough à regarder. J'étais chez mon père l'autre jour, puis il y a la télé, mais il y a comme illico, mais pas beaucoup de postes.
T'es sûr de ce que tu vas dire là?
Ouais.
Tu vas parler contre Juste pour rire?
Pas contre Juste pour rire.
Ok. Au pire, tu coupes.
Au pire, je coupe.
Vas-y.
J'ai pas peur.
Bon.
Mais, non, mais c'est déjà dur à regarder parce qu'il y a tellement de montage.
Ah, c'est ça, c'est le pire. Moi, je trouve que c'est vraiment ingrat pour l'humoriste. Parce que tu t'en vas voir le show, puis tu ris parce que t'es dans la salle, parce que aussi ça...
L'humour, ça se
travaille. Aussi, une soirée d'humour, à un moment donné, t'embarques dans le buzz, ça fait 2 heures que t'es assis, t'as une complicité qui se développe avec les gens. Puis là, tu fais de ta soirée de 2h30 un show de, je sais pas, 1h30.
Mais tu sais, mettons pour...
Ben, il coupe genre quoi, un tiers de tout le show?
Ah, plus.
C'est pas plus.
Ça dépend de qui, mais tu sais... Moi, tous ceux qui sont de la relève, qui ont fait un numéro à Juste pour rire, mettons l'an passé, je l'avais vu déjà 6 fois, leur numéro.
Oui, oui.
Quand ils le rodaient dans les bars ou whatever. Puis la plupart du temps, les numéros, ça dure 10 minutes. À télé, c'est 3 minutes à peu près.
Ah ouais, ils prennent vraiment les meilleurs dans le grand game.
Puis ils rajoutent des rires, ils rajoutent ceci, tu sais.
Ouais, il y a un montage,
là. Mais c'est fou, là. Tu sais. Parce que j'ai vu le gala de Eric Salvaire. Puis
ouais,
le début du show, c'est correct de faire une animation grandiose avec de la variété puis tout, mais là ils ont fait Michel Louvain qui chantait Gunman Style.
Ok.
Mais ils ont chanté la chanson au complet.
Et c'est long là.
C'est quand, mais,
4 minutes.
C'est 4 minutes d'un vieux monsieur qui chante en japonais coréen approximatif. Tu sais, c'est cool pour tous les danseurs, les jeunes danseurs québécois qui ont eu la gig de danser devant 2500 personnes.
Ouais, c'est gros, mais...
Mais à la télé, là, pis ils l'ont pas coupé du tout, ça, pour le montage.
Ben, voyons, c'est bien long.
Pis, tu sais,
Michel Louvain... Y'a-tu des gags dans ces 4 minutes-là?
Non, c'est ça, vraiment là. Ça. Pis là, tu vois les gens, comme, taper des mains, pis comme, ils trouvent ça coquin de voir Michel Louvain, de 80 ans, qui a pas beaucoup de souplesse dans les genoux pour les lever, pis...
Oui,
là,
c'est bizarre, hein.
Mais... C'est des événements, tu sais. C'est pour ça que le Zoo Fest existe aujourd'hui.
Ouais.
C'est pour les shows d'une heure, qui pour moi, c'est la meilleure durée possible d'un show d'humour.
Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai le goût d'aller voir des shows Zoo Fest. C'est parce que toi, t'es plus dans le milieu que moi.
Ouais.
Je connais bien des gars de nom, mais si tu me disais, là, on fera pas un top 10. Là,
non.
Mais...
Moi, les shows que je veux absolument aller voir... Il y a Charles Beauchesne,
ouais,
qui va nous parler de la peste noire, ouais, pendant une heure. Ça,
j'aime bien Charles Beauchesne.
Ce genre de gars-là, tu lui donnes une... Faut que tu le vois pendant une heure. C'est vraiment le genre de gars qui bénéficie du plus de temps possible pour parler.
Ouais.
C'est pas qu'il est pas efficace en 10 minutes, c'est juste que il y a tellement un univers à lui, puis il est tellement brillant qu'à une heure,
c'est parfait.
Tu t'ennuieras pas, là.
Non, parfait.
Il y a aussi les Pic-Bois enfin drôles.
Penses-tu qu'ils vont être drôles pour vrai?
C'est un coup de cœur perpétuel, les Pic-Bois.
Ouais, je les aime beaucoup.
Puis les trois dernières années, c'était Frites et Moules.
Ouais.
Là, ils vont être sur un personnage aussi, mais ça va être un... Fait que juste pour le nouveau concept, c'est à voir.
Ouais.
Moi, je vais aller voir, c'est sûr, Ici JC, de JC Surette.
Ouais.
Un bon chum. C'est sûr, je vais aller voir tous les shows à Julien, c'est comme le show 2000,
ouais, c'est ça.
Enfin rassemblé avec Richardson, Zephyr.
Ouais.
Puis pour vrai, sinon, je sais pas. Il y a le New Mehdi. Girl aussi. Mehdi, c'est sûr aussi, c'est un incontournable.
Ouais.
Sur sa deuxième heure. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire.
Il est bon, le petit Chris, hein.
Bah ben, oui, vraiment. Puis tu sais, son heure, il pourrait l'improviser. Puis.
Ouais, quasiment.
Sauf que là. C'est dans son dernier show qu'ils ont fait ses numéros de rap puis de, tu sais, de la petits trucs musicaux un peu. Fait que j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'il va s'en aller avec sa deuxième heure.
Ouais.
Mais ce gars-là, c'est une machine, puis son matériel, il va l'avoir, c'est sûr.
Ouais, j'ai hâte de voir ça.
J'ai vraiment hâte. Le show New Girl avec Rosalie Vaillancourt, okay. Et tout ça.
Ouais.
Vraiment beaucoup de shows intéressants, puis tu sais, je suis allé au dévoilement, tout ça, puis ils ont vraiment pas mis beaucoup d'emphase sur le dévoilement des shows. Fait que j'ai pas encore lu le programme pis tout ça.
Bon.
Il
y a une programmation encore quand même assez exhaustive.
C'est énorme. Souviens,
c'est comme 100 shows. Ben, 100 différents shows qui sont joués entre 2 et 12 soirs. Là.
C'est
genre, là, maintenant.
C'est du 9 juillet au 31 juillet.
Ça commence cette semaine, là.
C'est jeudi.
C'est demain.
Ouais.
Hey, ça commence demain.
Ouais. Puis demain, d'ailleurs, je suis au show Couche avec un comique.
Hein?
Ouais.
Hey, je vais y aller demain.
Nice.
Ok.
Fait que ça, c'est un show basé sur la sexualité.
Ça me gêne, par exemple.
Sinon, pour vrai, prends le cahier, là, qui, où tous les shows sont imprimés dedans, puis encercle-les, là, ceux que tu vas aller voir, puis check les dates.
Ouais.
Le but, c'est d'avoir une Zoopass.
Mais je pense que... Ben moi, je vais jouer au Zoopass.
Ah bon, ben fait que tu vas avoir une Zoopass.
Tu
vas l'avoir, ta Zoopass d'artiste. Ça, c'est hot, sauf qu'avec la Zoopass, le problème, c'est que si c'est sold out,
tu t'attends que les gens rentrent, ouais. S'il y a de la place.
C'est ça. Mais, puis le but, c'est d'aller voir 2 shows par soir.
Oui.
Parce que ça c'est vaut la peine.
C'est de 7 à 8, puis de 8 à 9, genre, exact. Tu runs à l'autre place. Ou...
C'est ça. Mais bon, t'as dit que t'allais faire un show d'impro. L'impro, c'est une grosse partie de ta vie.
Oui, quand même.
Mais, tout à l'heure, t'as fait un prop, c'est à Fred Barbouchi. Un gars très créatif. En fait, la créativité, c'est ta vie, en fait.
Ouais, c'est un gros morceau, là, tu sais, moi, c'est ça, là, j'ai étudié en art visuel au cégep, puis à l'université. Parallèlement à ça, j'ai toujours fait de l'impro, quand même sur une base très régulière.
Ouais, ouais.
Puis, récemment, j'ai même joué un peu à la télé, fait une chronique dans Gros Titre, que j'ai toujours écrit des capsules aussi un peu humoristiques sur le web, des faux groupes de musique. Je fais de la flûte traversière, fait que c'est ça. Là,
vous aviez passé à l'émission à Christian Bégin.
Ouais, à bar ouvert. C'était n'importe quoi, mon gars. C'est, mettons, là.
Mais déjà, le concept, ça aurait pu être... Ben, cette émission-là, c'est ça passe ou ça casse, le concept, puis ça a un petit peu cassé.
Ça a cassé.
Mais ça aurait pu être... Vraiment hot.
Il y avait des bonnes affaires pour vrai parce qu'il donnait le micro à la relève. Puis vraiment une relève éclectique, là, autant dans le slam, le cirque, la chanson.
Ah ouais.
C'est rare, tu vois ça à la télé.
Ah, puis votre faux groupe en plus.
Ouais, puis c'est ça. Nous, Jaune Orage, pour ceux qui connaissent pas, ben ça a commencé, c'était plus un stunt internet au début. On voulait faire comme. On se présentait comme étant Jaune Orage, un groupe qui avait été refusé à secondaire ou cégep en spectacle. Puis on disait que ben notre tune fallait qu'elle soit véhiculée. Puis c'était comme du genre de folk acoustico engagé avec de la flûte traversière. Ça a quand même fait un petit buzz. Les gens ils ont compris que c'était une joke bien vite. Là, c'était plus juste un canular, mais on a continué parce que le médium était. Je trouve la plateforme était drôle un peu, tu sais, j'imagine. C'est ça.
Mais c'était le fun à faire.
Ouais, on a fait une douzaine de chansons puis quelques petits trucs. ça, c'est mort de sa belle mort, mais...
Uh-huh.
Ouais, fait que c'est ça, je crée. J'ai toujours des petits projets ci et là. Là, j'essaie de un peu m'affirmer dans le monde de la comédie. Ouais. Je me suis trouvé un agent récemment. J'essaie de me caster, puis partir des projets, puis mettre plus de temps là-dedans. Ouais. Parce que l'art visuel, c'est le fun, mais c'est peut-être pas tant mon affaire finalement.
Non.
Ouais.
Tout était beaucoup dans la peinture. Ça, ouais. Ça peut rester quand même.
Je pense que je vais toujours en faire.
C'est là. Ça.
C'est un hobby, là, tu sais, c'est quand même un mode d'expression, mais j'ai plus de difficultés avec le milieu des arts visuels.
Le milieu.
Ouais, ben, tu sais, je me reconnais juste pas là-dedans, tu sais, je veux pas talk shitter ou rien, mais c'est un milieu extrêmement difficile, tu sais, d'un point de vue. Gagner sa vie, on oublie ça, là, à moins que tu sois le 1 sur 1000 qui perce, là, qui s'en va vendre à New York d'étoiles, mais...
C'est fou, hein, parce que tous ces milieux-là, même le stand-up, c'est comme ça, puis le théâtre, puis la musique...
Ouais, c'est pas payant.
Mais ça, là, ben, c'est, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de place, tu sais, mais l'art visuel, c'est...
Mais l'art visuel, c'est pire chose, que hein. Tout, c'est que moi, faire une grosse toile, ça me coûtait 200$ de matériaux.
Ouais.
C'est pour ça que non seulement j'avance pas, ça. Mais ça me coûte 200$, puis après ça, il faut que je l'entrepose.
Ouais.
Tu sais, je peux pas, tu sais, c'est une toile de 6 pieds, là. Fait qu'il faut que tu loues un atelier pour juste dropper les toiles que tu vends pas.
Ouais.
Fait que tu sais, à un moment donné, c'est non seulement c'est aucune rentrée d'argent, mais tu sais, ça coûtait une fortune. Puis... Et aussi, l'autre affaire, c'est que c'est un métier vraiment solitaire.
Ouais.
Puis je me rends compte que moi, je suis d'un tempérament plus social. J'aime ça travailler en équipe. C'est pour ça que j'aime ça faire des vidéos, des sketchs avec mes amis.
Oh, ouais.
Je suis bien seul, mais je suis comme dans le travail, j'aime ça avoir un échange à un moment donné. Puis ça me manquait beaucoup dans le... Quand j'étais tout seul à l'atelier après 3-4 heures, je commençais à déprimer, tu sais.
Ouais.
Alors, j'ai comme laissé ça de côté, mais je travaille sur un livre pour enfants que ma copine a écrit.
Ah oui, c'est vrai.
Ma blonde, Laurence Goff, jeune auteur, vraiment doué. Et j'illustre ça à l'aquarelle.
Cool.
Fait que tu vois, ça c'est un projet vraiment fun, projet de couple.
Ouais. Mais tu connais-tu l'émission web Comedians in Cars Getting Coffee?
Avec Seinfeld?
Ouais.
J'en ai juste vu un épisode, je pense, avec Kramer, Michael.
Ouais, Michael Richards.
Richard, très hot.
Là, il faut que tu regardes celui avec. On le regardera tantôt, ouais. Avec Jim Carrey.
Ah ouais?
Jim Carrey est rendu sur une autre planète, là. Mais il était déjà, mais là, c'est fou. Là. Mais là, il nous montre son atelier de peinture. Là.
Carrey fait de la peinture?
Shit, man, il fait de la peinture. Là.
C'est hot?
Ben, c'est hot, il est bon, mais c'est son atelier qui est impressionnant. Ben, tu sais, il y a tellement de cash.
Ça doit être immense.
C'est une maison, là.
Wow, si j'aimerais ça.
je te montrerai ça plus tard. Mais ouais. Mais c'est cool ça comme émission, Comedians in Cars Getting Coffee, puis là ils l'ont copié au Québec, là, comme de raison. Ouais, ben Michel Barrette,
ah oui, parce que lui il tripe ses chars.
Ouais. Mais je sais pas à quel point, tu sais, comme. Tu sais, si on voulait faire Friends par exemple, là, ça serait évident, tout le monde connaît Friends. Puis faudrait
littéralement l'adapter.
Mais non, mais juste un exemple, tu sais, si on voulait copier un concept américain que tout le monde connaît.
Ouais, ouais.
Il faut payer tous les droits et tout, mais comme, tu sais, Comedian in Cars, pas beaucoup de gens connaissent ça. C'est une émission web. Nous, on le fait en version télé.
Ouais, ouais.
30 minutes. Je sais pas à quel point. Ça doit être. Bon, Michel a dû tomber là-dessus à un moment donné.
Ah, le truc, c'est que tout existe aussi. Moi, ouais. Je suis de l'avis que, tu sais...
Les Simpsons l'ont fait.
l'idée de propriété intellectuelle puis de voler quelque chose, à moins que ça soit intégral, je pense que tout, même toutes les jokes, tu sais, tout est inspiré. Tout est, tu sais, je veux dire... Tout existe. Moi, c'est ça mon point.
Ouais, ouais.
Après ça, je suis pas un avocat, je sais pas comment ça fonctionne pour des droits d'idées originales de show. Je sais pas à quel point le show de Michel Barrette il est pareil, mais c'est pas le même format, c'est pas la même plateforme.
Ça doit plus ressembler à la limite à la petite séduction.
Bah, quasiment où on prend tous un train, là.
Ouais, oui.
De personnes qui chassent dans un moyen de transport.
Ou Michel, puis toi, aller dans ton village natal. Puis
ouais, avez... Montréal.
Exact.
Ça serait plate en Christ.
Ah ouais, hein?
On va se promener dans le centre-sud, dans le trafic. Wouh!
Mais quoi que ça pourrait être fucking drôle, ça.
Ouais, j'avoue.
Ça, faut que ce soit ça le concept global, là, les gars pognés dans le trafic tout le temps. Mais.
Il me semble que j'avais vu ça, The Show in the Traffic. Je sais pas si c'était un sketch ou quelque chose.
Mais. Ouais, fait que là, on parlait d'art visuel.
Ouais, ouais.
Fait que, ouais, tu mets ça de côté, mais dans le fond, c'est toujours présent.
Ben, je ferme pas la porte, mais c'est juste que, tu sais. Dans la vie, faut que tu. Tu sais, faut que t'as 24 heures par jour, là. Faut que ouais. tu décides qu'est-ce que tu fais avec. Puis là, ouais, j'étais pas trop heureux à l'atelier, là. Donc, j'ai décidé de plus focusser sur d'autres types de projets.
Ouais.
Je pense, je l'annonce en primeur, je pense prendre un cours de soir à l'école d'humour aussi, mm-hmm. travailler l'écriture humoristique.
Tu prends le cours d'écriture?
Je pense que oui. Okay. Là encore, là, tu sais, tout ça reste à voir, là. Mais essayer de me donner, je sais que ça me prend ça, moi ça me prend un petit peu de structure pour, ouais. Pour être efficace. L'école, ça m'a toujours vraiment bien fait mm-hmm. comme cadre. À partir de l'université, du moins, j'étais un étudiant comme motivé, puis je suis bien dans un cadre scolaire.
Ouais, ouais.
Puis j'ai envie d'essayer le stand-up. Écoute, j'ai des petits projets dont je peux pas en parler, mais qui s'en viennent aussi des trucs que je développe, autant dans le jeu que dans l'écriture. Fait que, je me croise les doigts pour que les trucs fonctionnent, mais...
Ben, je pense, tu sais, aujourd'hui, comme artiste, on peut plus se concentrer sur un seul projet, là, ça marche pas comme ça, là.
Exact.
Même si le stand-up ou le théâtre, ça a l'air d'être quelque chose de vraiment précis, là, faut vraiment essayer de, justement, le podcast avec les vrais shows, puis toujours d'autres projets. C'est vraiment important de... C'est important de rester actif intellectuellement puis ouais. créativement parlant parce que sinon on va se démoraliser parce qu'on fait pas d'argent.
Oh mais moi tu sais, honnêtement en ce moment c'est zéro un stress d'argent, c'est j'ai juste plus. Envie de faire ce que j'aime puis de le partager avec les gens, tu sais.
Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire c'est tiens en stand-up à mon niveau, il y a des semaines où j'en ai pas des shows.
Ouais.
Puis tu peux pas nécessairement écrire un nouveau numéro pour rien ou si t'as pas d'inspiration.
Ouais.
Tandis que si t'as un projet connexe, ta semaine sans show, elle va passer dans le beurre.
Ouais, ouais, ouais.
La semaine prochaine, tes deux shows, ils vont.
Moi, je suis très d'accord avec toi, là, tu sais. Je veux dire, je pense qu'on est à une ère aussi où est-ce que c'est possible d'avoir plein de projets de différentes natures, tu sais, puis de garder le nerf créatif éveillé. Il n'y a pas de truc, là, tu sais, il faut juste travailler fort, là.
Ouais, ben ça, c'est le truc.
Ah oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas de truc. Il y a un truc.
Mais c'est ça le seul secret, tu sais. Comme tu dis, l'école, ça peut être une structure pour toi, tu sais, structurer ta vie, ta méthode. Mais après, toutes les écoles, tu sais, autant que tu ailles au conservatoire d'art dramatique, qu'à l'école nationale de l'humour, qu'à wherever, si tu travailles pas fort après, tu travailleras pas pantoute.
Il
mm-hmm. faut évoluer, il faut. Faut créer en général, tu sais.
Absolument.
Puis, fait que là, tu joues à la LIM.
Ouais.
Est-ce que tu joues ailleurs? L'été, tu joues à la Boréale.
Ouais. En impro, non, c'est la LIM, tu sais, on dirait que j'y pense, là, pour pas oublier de ligue.
Ouais, c'est ça.
J'en ai fait beaucoup. Non, juste la LIM maintenant. Puis, je coach.
Ah oui, ben oui.
Au cégep. Mm-hmm. Ouais.
Puis, avant de parler de coaching, parce que ça va être intéressant, où tu penses amener l'impro ou qu'est-ce que tu penses te ramener de l'impro?
Hey, je fais le Punch Club aussi.
Oui.
Je vais le noter parce que c'est quand même un projet qui me tient à cœur et que je le fais depuis le début un peu. Ça fait.
Ça a tellement grossi.
3 ans, quasiment?
Ça doit faire 3 ans.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. Ogden Rijanovic de À la Claire Ensemble et Dominique Lapointe et Carl Alex Jaja, des gars de Québec,
ouais.
Qui ont parti ça. C'est de l'impro en équipe de 3 contre 3, un peu style décorum, un peu de boxe ou street battle rap.
Ouais, ouais.
Un truc un peu plus informel, il n'y a pas de règles, il y a de l'argent au bout du compte sur la table. Il y a des call-out en vidéo comme pour créer des buzz entre les match-ups. Mais tu sais, au final, c'est un show d'impro vraiment drôle, je pense, axé sur la qualité des joueurs. Puis, ben voilà, tu sais.
Toi, tu joues avec Louis Courchesne, Virginie Fortin.
Exactement.
Tu vas encore champion.
Ouais, ouais, invaincu en 7 matchs, je pense.
Ouh.
On va rejouer à Québec pour la ceinture le 29 août, je pense. Et je pense pas que j'ai le droit d'annoncer l'équipe, mais c'est du monde d'humour.
Ah ouais?
C'est du monde fort.
Ok.
Ça va être excellent.
Ouais.
Ouais.
Nice.
Ça va être excellent. Donc, c'est ça. Mais c'est quoi la question?
C'est quoi l'importance de l'impro pour toi
dans ma vie?
Ouais.
Je dirais que ça a changé. J'ai commencé à faire de l'impro pour différentes raisons que j'en fais aujourd'hui.
Uh-huh.
J'ai commencé à faire de l'impro parce que j'avais envie de faire de la scène, puis parce que j'étais un petit peu en manque d'attention, j'imagine. Mm-hmm. Puis j'avais de l'énergie à brûler devant devant mes amis, tu sais.
Ouais.
Après ça, quand manifestement, il y avait certains talents de découvert là-dedans, il y a une recherche un peu plus artistique. Ben, en fait, ce que j'aime de l'impro, c'est le jeu, là. Mm-hmm. C'est à l'état pur, c'est jouer, là, tu sais. Jouer une autre personne, t'es dans la spontanéité. Puis je vois l'impro comme une espèce de... C'est un grand brainstorm aussi, tu sais. Où est-ce que t'écris, tu joues, ouais. Tu te mets en scène, tout en même temps. Moi, en tout cas, s'il y a quelque chose qui me drive énormément. Puis le fait que ça soit constamment renouvelable et éphémère aussi, je trouve ça quand même fantastique de savoir que je peux faire 10 shows d'impro avec le même monde en 10 soirs, puis ouais. Jamais faire la même chose, tu sais. Mm-hmm. L'espèce de côté de nouveauté, tu sais.
Ouais.
Mais par contre, pour moi, l'impro, c'est pas... Comment je pourrais le dire? C'est une finalité parce que c'est un jeu, c'est un médium en soi.
Ouais.
Mais faut faire attention, tu sais. C'est-à-dire que l'impro, c'est drôle parce que les sketchs sont pas écrits puis on les vit de manière éphémère, mais tu sais, je trouve que c'est intéressant des fois aussi d'essayer de pousser les choses plus loin. T'sais. C'est pour ça que j'essaie de faire d'autres choses que de l'impro, tu sais.
Ouais.
Longtemps, j'ai eu assez du buzz de scène de juste faire de l'impro, mais là, je suis content d'essayer des nouvelles affaires.
Ouais, en sortant de cégep, t'as fait, t'avais ton bon, ta bunch de ligue, là. Tu jouais à la CIA, à la Limonade.
Mm-hmm.
Tu jouais pas déjà
c'est à la Lime. C'est pas mal ça, ben, la Lime l'année suivante.
Ouais, ben c'est ça.
Ouais.
Tu sais, ça en faisait déjà pas mal.
Ouais, j'ai fait.
Même au cégep, tu jouais déjà à la CIA.
Ouais,
c'est ça. La dernière année.
Ben, tu sais, puis plein d'autres affaires, là, ouais. J'ai fait des tournées en France, j'ai remplacé dans n'importe quoi, je veux dire, les ligues d'été, tu sais, additionné, j'ai dû jouer, je sais pas combien, là, mais des milliers d'heures de pool,
ouais.
tout bénévole,
ah, ouais.
Mais non, mais parce qu'on aime ça, tu sais, mais...
Oui, évidemment.
Il y a pas vraiment, le marché est bizarrement fait, là, tu sais, mettons, en Europe, les gens sont payés pour jouer de l'impro. Nous, ça nous coûte de l'argent pour se payer nos t-shirts et notre bière. Fait que... puis on remplit des salles quand même. Fait que... Il y a quelque chose d'un peu bizarre pour moi là-dedans. Là.
Ouais.
Ben, moi, je pense que généralement, tu sais, on est gêné dans le monde de l'impro d'essayer de se payer. T'sais.
Mm-hmm.
On est gêné même de demander à des gens d'animer, d'organiser les shows pour nous. On prend tout sur nos épaules. Fait que là, moi, j'organise le show, c'est moi qui fais la pub, je joue le show, c'est moi qui démonte la salle, puis au bout de ça, ben...
T'as eu du plaisir.
J'ai eu énormément de fun, mais je suis vidé, puis la ligue peut même pas m'offrir une bière, tu sais.
Mais
tu comprends ce que je veux dire? C'est fucké comme ça, milieu...
C'est ce qui est le fun du Café Campus, par contre.
Ouais, ouais. Ils montent la salle, ils font la pub, puis ils t'offrent la bière.
Puis, ouais, après,
t'es pas payé, mais au moins,
ouais.
Tu sors pas de là avec un bill de 65.
Exact.
Puis, non, mais je trouve juste ça bizarre qu'à un certain niveau, je peux comprendre que tu sais, il y a tellement de niveaux d'impro, mais tu sais, à un certain niveau, même les ligues qu'on dit de haut calibre, tu sais, les joueurs sont jamais rémunérés, là, sauf la LNI. Jamais, jamais. Puis le Punch Club.
Sauf que, est-ce qu'il faudrait, si, à ce niveau-là, est-ce qu'il faudrait que les ligues d'impro entrent UDE?
Ben, je pense pas. Pas toutes, en tout cas, parce que si tu veux que ta ligue d'impro, c'est des cachets DA, ben,
pour payer, mettons, 10 personnes à 125$.
Mais des fois, c'est faut... l'UDA qui veut pas que tu crées ton projet sans leur aval.
Ouais, mais je pense que l'UDA est toujours resté quand même, à part la LNI, ils considèrent que les autres ligues sont pas...
Mais si c'est bénévole, c'est normal.
Ouais, c'est ça. Exactement.
C'est, s'il y avait un cachet, c'est peut-être là que le syndicat embarquerait, par contre.
Mais c'est juste que je pense que on a tellement des bonnes ligues d'impro au Québec qu'il y en a beaucoup qui pourraient se permettre de changer le système un petit peu économique. Quitte à ce que ça coûte un peu plus cher rentrer, on est habitué de payer 3$ pour rentrer dans un show, mais c'est rien, 3$.
Ouais, ben des places.
C'est combien de soirées du monde? C'est 7$ là, de la relève, 10$?
À peu près, ouais.
Ça serait pas compliqué de monter.
Je suis d'accord, mais. Le...
C'est pas juste ça.
Mais il faudrait que le. Non, évidemment, mais je pense que si ça arrivait, il faudrait changer le système au complet.
C'est juste qu'on s'excuse tout le temps. On fait « Ah, mais non, mais tu sais, on le fait pour le fun. » Mais j'espère qu'on le fait pour le fun. Mais
on fait du stand-up pour le fun aussi.
Mais je pense que les comédiens, ils ont du fun aussi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je pense qu'à un certain niveau, c'est pas tout le monde, mais je pense que c'est un travail. Puis on remplit des salles, puis on donne un show. Je pense que ça
vaut. À ce moment-là, c'est la même chose que le spectacle pour un bar, mettons, de recevoir une soirée d'humour ou une soirée d'impro. Pour eux, c'est la même chose.
Exact.
Ça remplit un bar un soir où il n'y a pas de gens qui viennent boire de la bière.
Exact. C'est même pas juste les covers, c'est qu'à un moment donné, tu fais rouler une business, là.
Ah, exact.
Mais bon, après ça, tu sais, je me plains pas, là. Je continue à faire de l'impro bénévolement parce que j'adore ça, là.
Puis, fait que cette année, l'an dernier, en fait, t'as commencé à coacher à Saint-Laurent.
Ouais, ouais.
Où j'ai coaché juste avant que tu partes.
Ouais.
Première chose, de ton œil extérieur, puis intérieur, en fait, qu'est-ce qui a changé de l'impro collégial de notre époque à cette époque-là? Tu sais, puis notre époque n'est pas si loin que ça.
Non, c'est ça. Nous, on parle 2006 à 2009 environ.
Ouais, exact.
Qu'est-ce qui a changé? Je vais être prudent sur ce que je vais dire, parce que j'ai peur de sonner comme mon oncle, qui est comme, hey, dans mon temps. Moi, j'ai l'impression que peut-être la génération actuelle, il y a un engouement différent, et peut-être l'engouement est peut-être moins gros. Que, en tout cas, dans mon temps, je me rappelle que c'était vraiment un big deal pour moi.
Ouais.
L'implication, tout ça.
Mais toi, puis moi, dans.
Pour moi, l'impro, en tout cas, puis ça, c'est personnel, mais l'impro passait avant l'école même.
Ouais. Mais, tu sais, toi, puis moi, de notre génération, on est des gars qui se sont donnés en Christ pour autant nos équipes que la ligue en général, autant sur le jeu. Puis, se donner, c'est aussi être présent en général.
Ouais,
ouais. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur l'engouement. Puis, mais je pense que. Je pense que c'est. On a vu qu'il y a un changement de génération, mais pas juste de joueurs d'impro, mais de personnes. Eux sont de la génération des téléphones cellulaires.
C'est pas la même génération, en effet.
C'est... Moi j'avais un cell à ma deuxième année de cégep, puis c'était un flip phone, pas d'internet.
Ah, moto.
Fait que, mettons, là, le matin de tournoi, le lendemain de veille, parce qu'on buvait, là.
Ouais.
Et qu'on en a bu de la bière à 2,50, là.
Oh, ouais.
C'est clairement mes plus grosses brosses, là. Et on boit dans un cégep.
C'est violent.
Le lendemain à 10h, c'est sûr que j'étais levé, puis j'étais devant une game d'impro. À peut-être dire des niaiseries fort, là. Ou à.
Ouais, c'était violent. Ouais, on buvait en crise.
Ah, ouais. Mais on était levé, là. C'était rare, les gens qui restaient. En tout cas, de notre entourage.
Ah ouais.
Parce que dans ce temps-là, on pouvait pas aller sur Internet. C'était le début de Facebook, là.
Ouais, exact. L'interface était bizarre, là.
Ouais.
Le vieux Facebook. Il disait comme... Tes statuts commençaient tout le temps par ton nom.
Ouais,
Ouais, c'est comme... Arnaud est content. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux. C'était weird.
Puis il y avait comment on s'est rencontrés.
Ah ouais.
Quand tu faisais une demande d'amitié. Puis là, oui, on s'est rencontrés. Puis là... C'est fou parce que Facebook, à chaque fois qu'il y a un changement, on se dit « Ah, wow, big deal, le changement. »
À chaque 2 secondes. Là.
Ouais. Mais là, tu regardes le premier puis le aujourd'hui. Là.
Ça a tellement changé. Ouh! Ça a tellement changé.
Mais
pour en revenir à l'impro, ben, je sais pas parce que honnêtement, être de l'intérieur puis être de l'extérieur, c'est pas pareil. Non. Mais j'ai l'impression
qu'il y a peut-être un peu moins d'engouement, puis à la limite, c'est quasiment correct que les jeunes soient... Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans la gang que je coachais, il y en a beaucoup pour qui l'école, c'est important, puis c'est numéro un. Je trouve que c'est vraiment important, fait que je pourrais jamais leur en vouloir de pas être... Mais c'est juste que moi, perso, j'allais voir de l'impro quasiment tous les soirs. Ouais. Comme je dis, c'était important. C'était un monde qui s'ouvrait à moi, puis je me définissais presque entièrement par ça.
T'sais. Des fois, j'ai l'impression que les jeunes vont plus voir d'impro pour deux raisons. Les jeunes. Ils vont plus... Un, parce que à cette heure, il y a 12 ligues où c'est probablement eux qui l'ont créé, ou ouais. C'est leur ami de l'an passé qui l'ont créé. Puis parce que, puis je trouve ça moi aussi, que les ligues qu'on allait voir, CIA, Limonade, Sprite, sont inaccessibles. Même la Boréale a l'air inaccessible aujourd'hui.
Pour jouer?
Ouais, éventuellement.
Ben, évidemment que l'impro restera toujours quelque chose, une histoire de clan.
Ouais.
Et ça revient aussi à l'affaire que, comme on se paye pas, tout ça, c'est uniquement récréatif. Donc, qui dit récréatif dit gang d'amis.
Chum, ben ouais.
Qui dit gang d'amis dit, ben, je vais drafter mon ami avant le joueur talentueux, ouais, mais ouais. Légèrement dans sa bulle,
ouais, ouais.
Que personne connaît.
Exact.
Donc, ouais, mais tu sais, justement, faut aller les voir, ces ligues-là, pour boire des bières avec le monde. Puis
exact.
Et espérer éventuellement accéder à ce monde-là. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, que ça semble un peu plus inaccessible.
Mais tu sais, c'est pour ça. Tu sais, je veux pas de name dropper des noms de ligues ou whatever, mais il y a des ligues, c'est sûr, qui ont été créées par certains. En fait, le meilleur exemple, c'est la première année de la Boréale, où ça s'appelait la toute petite ligue d'improvisation montréalaise.
Ouais.
De certains joueurs qui ont été exclus du camp est née la NLI.
Ben, il y en a plein, puis les ligues s'en cachent pas, là. La ligue.
Saint-Cyboire.
Ouais, c'est ça. C'était ouais. Ça, là. C'était comme. Je pense que c'était Guillaume Touzel.
Ouais.
Puis un autre gars qui avait pas été pris au camp de. Et je peux même pas
whatever,
dire.
Ouais.
La Sprite, peut-être.
Oui, probablement la Sprite, parce qu'à cette époque-là, c'était. Il y avait beaucoup de joueurs connexes des deux ligues, tu sais, les Dom et Balin.
Ouais, ouais, cette gang-là. Fait qu'ils ont fait le camp, puis c'est devenu. Puis ces gars-là, à un moment donné, ont même pas été draftés par. Tu sais, comme fondateur de la ouais. Ligue. Pour dire que toutes ces ligues-là évoluent. Ouais. Les niveaux ont. Je dirais que tous les niveaux des ligues ont tendance à monter.
Évidemment.
Mais ça, c'est une impression que j'ai. Mais
ben, c'est une impression.
Mais, je dis ça, puis c'est peut-être pas vrai. Peut-être que la Ligue CAM était plus forte il y a 10 ans.
Exact.
C'est mais, difficile à dire, là.
En fait, je trouve qu'au contraire, des fois, on a l'impression que c'était plus fort avant parce qu'on avait un œil
de jeune.
Ouais. De jeune, tu sais. De regarde. Tu sais, la Ligue CAM, tu regardes sur papier là, des équipes, là, des. C'était en Barbouchi, Edith ah ouais. Cochran, tout, c'est comme, my god, on se ferait défoncer jouer contre eux, mais à l'époque.
Ah non, c'est l'impro de 97, là. C'était une autre affaire, là. Tu jouais bien des animaux, là.
Ben,
pas nécessairement,
ça,
mais
tu mets.
Ça a changé quand même, l'impro a changé, là.
Tu mets Barbouchi à l'époque contre Julien Carrière à sa grosse année, tu sais.
Ce qui est ça, c'est que le mot d'ordre, pour les gens qui arrêtent de jouer de l'impro dite rapide, l'impro de bar, ouais. L'impro des petits formats, des gens justement qui s'en vont jouer à la lime uniquement, tu sais, des ligues où est-ce que il y a plus vraiment de contraintes de temps, où est-ce que t'es plus dans l'exploration des structures de spectacles vraiment libres.
Mm-hmm.
Ces joueurs-là, quand ils retournent à des catégories... Où est-ce qu'il faut être rapide, des quick change, ouais. Des zappings qui sont pas capables de suivre la nouvelle génération. C'est le mot que j'entends souvent, moi, en tout cas.
Ouais,
de,
ouais.
De la vieille garde.
Tu m'entends souvent dire ça, là. Ils sont rapides.
Mais pis c'est vrai que ça va bien plus vite.
Ouais.
Ben, ouais, je pense que c'est une culture du punch, du name drop. C'est quand même aussi. Ça mène des fois à la désincarnation.
Mm-hmm. Mais ça, c'est.
En tout cas. Mais c'est des trucs de génération, je pense.
Puis la culture du punch puis de la rapidité comme ça, tu le vois sur le web. Tu sais, Vine, ça n'a pas été créé pour rien. Snapchat, c'est encore pire. Là. Ça, non seulement c'est rapide, mais c'est éphémère.
T'as raison, ça fait partie d'un...
Un vidéo sur Facebook, là, si ça dure plus que 16 secondes, là, c'est bien rare que les gens vont l'écouter au complet.
À moins que ça soit bon.
À moins que ça soit bon.
Tu peux t'offrir une minute.
Ouais. Mais tu sais, comme une web série, les plus efficaces sont les capsules qui n'ont pas de lien entre eux autres, que tu n'as pas besoin d'avoir vu la semaine passée pour comprendre cette semaine puis la semaine prochaine. Mais c'est correct, tu sais, c'est...
Mais faut pas arrêter de faire des trucs longs pour autant.
Non.
Parce que sinon, ben, on aurait plus de cinéma, pis tu sais, on aurait plus de théâtre, pis...
Même de séries de télé.
On aurait plus, tu sais... Je pense qu'il y a une mode en ce moment, là, tu sais, du micro, du clip, du, justement, le, tout le mouvement Vine, mais à un moment donné, ça pourra pas tout le temps être plus court, là.
Non.
Je veux dire, la seconde. En dessous d'une seconde, là,
ça, ben ça, c'est...
T'as même pas le temps de faire un setup à ton punch.
C'est quasiment les... Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais tu sais, des fusillades de 3 secondes, là, en impro, là.
C'est tough.
C'est tough, mais tu sais...
T'as pas de build-up, tu sais.
Uh-huh.
Ou mais... à peine.
Mais tu peux pas... Ça peut pas être plus long de cliquer sur ton vidéo que de l'écouter, tu sais.
C'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on va pas... on va taper la limite, on est peut-être dedans... Puis je pense qu'il y a une affaire de mode, là.
Ouais.
Ben, j'ai l'impression. C'est juste que dans l'interface de l'ordi, ce qui se passe, c'est que là, de plus en plus, on est multitask. On est capable de faire jouer une vidéo sur YouTube, checker un email, clavarder.
Puis à ce temps, c'est facile, même. Tu n'as plus besoin de.
Ouais, ouais.
T'as plus besoin de souris ou de.
Mais ce que ça fait, je pense que ça divise l'attention.
Ouais.
Puis aussi avec toute la mode, tu sais, on est très YouTube. En tout cas, moi, je me considère de cette génération-là quand même, même si j'avais pas vraiment Internet quand j'étais jeune.
Ouais,
mais je suis très YouTube. Donc, on est plus à apporter à, je pense, passer du temps sur Netflix que de lire, par exemple.
Ouais.
C'est plus difficile de retourner à un médium papier.
De s'asseoir, puis juste.
Noir et blanc. Qui demande quand même une concentration, tu sais. L'écran qui bouge. Tu peux te mettre en mode un peu plus légumes, entre guillemets. Puis...
Mm-hmm.
Fait que je pense que tout ça fait partie de ce changement-là.
Ouais.
mais j'adore coacher l'impro.
Ouais, puis deuxième affaire, qu'est-ce que ça t'a amené, toi, comme joueur de coacher?
Mais je pense que ça... D'enseigner quelque chose, ça t'oblige à synthétiser... tes propres valeurs, tes propres principes, tu sais.
Ouais.
Fait que là, moi, je me suis assis avant la session, je me suis dit, bon, je vais enseigner à ces gens-là, pour moi, c'est quoi l'impro?
Ouais.
Fait que, c'est quoi pour moi l'impro? Fait que, écrivons ça, puis l'exercice est super intéressant, parce que quand t'enseignes, faut que tu synthétises un peu ta pensée, tu peux pas juste faire, ah ben, je pense que... Tu sais, faut que tu arrives avec des énoncés.
Ah, faut que tu dictes, là. Faut que tu dises, pour moi, une intervention, c'est ça.
Ouais, tu sais, c'est ça. Puis l'impro, en même temps, c'est pas l'histoire de la Palestine, je veux dire.
Non.
Quoi que ça. Il y a des parallèles à faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des faits, mais c'est très, très, très une affaire de goût, là. Tu sais, c'est très subjectif, là.
Ah, ouais, ouais.
Je veux dire, moi, ma vision de l'impro est pas la même que toi.
Mm-hmm.
Puis on le fait pas pour les mêmes raisons. Puis l'impro, c'est aussi construire des histoires ensemble. C'est mettre à profit des imaginaires différents. Donc faut toujours être dans le respect de la proposition de l'autre. Moi, je prétends pas avoir la vérité sur l'impro, mais je pense que je peux dire qu'il y a des principes de base, il y a des pièges à éviter. Fait que moi, j'essaie de me servir de mon expérience de joueur pour leur dire « Faites attention à ça, tombez pas dans ces pièges-là ». Mais une fois que c'est parti, ben c'est eux qui improvisent, puis moi je regarde, puis je suis fier d'eux.
Ouais, exact. Et ce qui est dur au collégial, c'est qu'il y a le manque d'expérience certain.
Ouais.
Puis pour moi, la plus grande qualité de l'improvisateur, c'est la générosité.
Ouais.
Ultimement, là, tout le monde devrait être généreux avec tout le monde. Puis ça, le problème avec des... Tu sais, il y a des joueurs qui ont 16 ans, d'autres qui en ont 20. Certains qui jouent dans 4 ligues présentement... D'autres que c'est leur premier match d'impro.
Ouais, c'est très
spécial. Être généreux. Pour être généreux avec celui qui n'a jamais fait ou avec celui qui va te décalisser parce qu'il en fait tout le temps,
ouais.
c'est pas évident. Mettons, tu joues à la CIA, c'est plus facile d'être généreux, même avec quelqu'un qui va te puncher d'en face.
Absolument.
Tu peux accepter d'être généreux avec lui. En fait, idéalement, t'acceptes. Puis même deux punchers qui vont se puncher d'en face, c'est peut-être la générosité qui l'un pour l'autre, tu sais. Si t'es...
Tant que t'embarques dans l'histoire, tu sais, puis que tu refuses pas, puis que je pense que deux bons joueurs qui sont capables de se puncher l'un sur l'autre, mais qui ont une surenchère, puis que le conflit, la situation humoristique fonctionne, ben tant mieux, tout le monde est gagnant. Là.
Toi contre Jag, Jean-Alexandre Giguère, tu sais, ça va s'envoyer la balle en crise, là.
Ah ouais, mais tu sais, faut accepter.
Après, mais c'est ça le but.
Mais c'est difficile de faire briller l'autre. Tu sais, comme tu dis, c'est une belle qualité en improvisation, surtout. Puis, mais c'est pas facile de le faire parce que par réflexe, je pense qu'on est des créatures orgueilleuses quand même. Puis, surtout que tu sais, c'est quoi le feeling de se faire donner par une foule, tu sais, se faire donner du rire, des applaudissements. T'en veux plus, c'est un peu comme de la drogue, c'est la même chose en stand-up, j'imagine. Quand tu goûtes à ça, tu fais, hey, je suis capable de provoquer ça. Ouais. Je l'ai, tu sais, cette affaire-là. Fait que c'est difficile de partager ça. Je pense que ça vient avec la maturité. Puis aussi, à un moment donné, quand t'en as assez fait, t'as plus à te prouver. T'as moins d'affaires à te prouver.
Ouais.
Tu sais, moi, je veux dire. En tout cas, c'est ça. Mais comme je te dis, je suis plus où est-ce que j'étais là, avant.
Le processus du rire. Du stand-up vis-à-vis celui de l'impro est tellement différent. Surtout quand tu ne fais assez des deux pour comprendre un peu. Tu sais, en impro, c'est beaucoup de guts, tu sais, c'est beaucoup de. Puis de hasard, on dirait.
Ouais, ouais.
Le stand-up, quand tu veux en faire pour vrai, tu passes tellement de temps à écrire, à pratiquer, à tester des trucs, à en parler à du monde, à que le rire en stand-up, des fois, c'est presque un soulagement.
Quand finalement, il y a un gag qui marche.
Non, mais comme, tu sais, si tu veux mettre tes guts sur la table, puis faire une joke comme, oh, celle-là est spéciale, tu sais, puis j'y tiens beaucoup.
Ouais.
Puis je vais, là, tu passes du temps à l'écrire, blablabla, puis finalement, t'as fait, puis là, les gens, ils rient. Parce que le but, c'est que les gens rient exactement comme tu pensais qu'elle allait rire.
Ouais.
Parce qu'il y a des gags que tu fais que c'est quasiment un rire de setup pour que la joke d'après comme explose.
Ouais, ouais.
Puis le but, quand tu fais ta joke de setup, c'est que les gens fassent comme... puis là, après, tu repunches là-dessus, puis là, les gens explosent. Si c'est pas ça qui se passe, là, c'est le problème.
Ouais, t'es...
Mais en impro, tu peux, t'as la chance de pouvoir comme surenchérir tant que tu veux.
Ouais, puis... tu peux faire sortir la blague d'à peu près n'importe quoi parce que... Tout est un prétexte, tu sais, quelqu'un dit quelque chose, puis là, toi, tu rembarques là-dessus, tout ça sort de nulle part, tu sais.
Ouais.
Puis le public est complice avec toi, le public est dans cette zone-là de, ils vont se planter, tu sais, rien n'est...
Ouais.
Il n'y a pas la pression, quand tu vas voir un stand-up, j'imagine que tu fais, ah, c'est mieux d'être drôle, tu sais, je veux dire, la personne a écrit ses textes, fait que... Ton niveau d'attente de blague est tellement différent que quand tu t'assois dans un show d'impro, tu fais bah, je m'attends à rien. Je sais pas. T'espères que ça va être drôle, là, évidemment, ou en tout cas que ça va être un bon show. Là, mais la pression doit pas être la même du tout.
Mais c'est drôle.
L'attente,
parce que...
en tout cas.
Ouais, non, clairement. Mais il y a des publics, puis c'est. J'ai pas d'exemple, mais c'est collé. Il y a des publics à certains bars qui aime vraiment quand ton stock est premier jet quasiment ou presque de l'improvisation.
Raw, là.
Ouais, ouais.
Ah?
Il aime ça de voir patiner puis avoir. Il y a des gens qui aiment vraiment ça, sentir que l'humoriste est presque un chummy, là.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que tu jases vraiment avec puis s'il y a une parcelle de quatrième mur, ça les bloque complètement. Mais encore là, tu peux pas te bâtir une carrière. Parce que c'est ça le but, éventuellement, d'avoir une carrière sur improviser ton number à tous les soirs.
Non, que... mais je pense que si t'es assez à l'aise pour juste avoir un petit peu de souplesse dans ton texte, puis être capable d'ouvrir une petite porte, mais de rembarquer, puis que le flow reste bon, mais c'est une force, là, j'ai l'impression, mais à un certain niveau, faut que ça soit quand même bien chorégraphié, là, tu peux pas te permettre de...
Si tu veux passer à télé, ou si
mais tu sais, Shogun Samy fait à chacun de ses shows, là.
Ouais, sauf, ben, oui... Mais rendu où il est, c'est. Tu sais, comme il a son matériel au complet, puis il a son moment où il jase avec le monde.
Je sais, mais.
Même Jean-Michel Antille faisait ça au début de chaque show.
Ah ouais?
Il improvisait avec le monde.
Ok.
Puis c'est.
Ça réchauffe le.
Ben oui, exact. Puis les gens. Les gens, ils veulent se sentir inclus. Puis ça, c'est normal, c'est crissement normal.
Ouais, mais dans l'humour, il faut que tu inclues le monde, je veux dire, en parlant de ce qu'ils connaissent. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu fais des références à des expériences communes. Ça fait partie de...
L'humour, c'est l'art des lieux communs.
Ben oui, c'est ça.
Parce que si les gens seraient... Si t'inventes...
Des jokes d'une planète que personne connaît, ça se peut que ça soit pas drôle, là.
Ah ouais, ou comme... Hey, tout le monde se sent de même, hein, quand on... Tu sais, tout le monde a l'impression de se faire chatouiller quand il est en char. Ouais, non, jamais. Non,
jamais.
Mais les vibrations, tu sais, non, non.
Ouais, c'est ça.
Ça sent pas cher.
Des jokes sur les Aztèques, ça se peut que... Si tu connais pas bien.
Mais tu vois, Charles Beauchesne va nous parler pendant une heure de la peste noire.
Ouais.
Puis ça, ben, ça prend comme un...
Mais penses-tu vraiment qu'il va parler pendant une heure de la peste noire?
Absolument.
Ouais?
Absolument. Hier, je parlais avec Simon Delisle pour le podcast. Puis il m'a dit que Charles est un érudit de la peste noire.
C'est intéressant, la peste noire.
Que...
Ça a tué la moitié de l'Europe, les années 1600, je pense.
Exact.
Par les rats.
Fait que lui, apparemment, qu'il... ça faisait longtemps qu'il voulait faire ça, puis que là, il considère qu'il y a ce qu'il faut pour le faire. Parce que, tu sais, c'est un sujet aussi précis que ça, il faut que tu sentes que tu peux le faire. Là.
Mais c'est extraordinaire. Quel beau défi. J'ai hâte de voir.
Ben, moi aussi. Là-dessus... Arnaud, est-ce qu'on peut te suivre sur le web ou est-ce qu'on peut te voir en spectacle?
Ouais, ben là, pour ce qui s'en vient, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, ça, hein?
Ça va sortir
fin juillet?
Mi-juillet. Comme, en théorie, ça devrait être pas celui de ce dimanche, c'est-à-dire le 12.
L'autre?
Ça va être le 19.
Ah, mais si vous êtes chanceux, je pense que je suis... Attendez, de mémoire, là, je suis juste pour rire... ouais, lundi le 20-21, je fais de l'improvisation sur la grande scène l'Auto-Québec, je pense. Je pense que c'est l'Auto-Québec, en tout cas à 18h et 20h30, le lundi-mardi. Le jeudi 23, je devrais faire un show ZooFest extérieur d'impro aussi, Ça suffit la comédie, avec, animé par Richardson, avec des humoristes et improvisateurs. Et puis, ben vous pouvez me suivre... sur Instagram et Facebook, Arnaud Soli. Je fais des Photoshop comiques le plus souvent possible. Et j'ai des vidéos que j'ai bien hâte de sortir, qui s'en viennent cet été, pour sûr.
Yes.
Merci beaucoup de l'invitation.
Tu fais plaisir, mon gars.
Comme d'habitude, si vous voulez rejoindre le podcast On se sent ensemble, ce que vous venez tout juste d'écouter, allez sur Twitter, On se sent ensemble, @OSSE podcast. Ceux qui savent pas ce que je veux dire quand je dis at, c'est l'art commercial. L'arrobas, c'est pour les années 50. Sinon, allez sur Facebook, On se sent ensemble. Allez voir ma page qui existe pas, mais ma page à moi, personnelle. Olivier Roberge, écrivez-moi. Y a des gens qui m'ont écrit dernièrement. Je suis très content d'entendre ça, que vous écoutez le podcast à votre travail plate. J'insinue qu'il est plate, mais ça peut être très stimulant aussi. Je sais pas exactement ce que vous faites. Il y en a qui font de la route, gênez-vous pas. Donc, d'aller télécharger les podcasts aussi sur iTunes. Mettez 5 étoiles si vous avez un compte iTunes. 5 étoiles, un commentaire cocasse, positif, constructif aussi si vous voulez. Sinon, c'est pas mal ça. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!